Vous allez entendre un message de William Branham prêché le 25 novembre 1965 à Shreveport, Louisiane, USA. Ce message s'intitule « L'union invisible de l'épouse de Christ ».
I hear the coming of the combine. You're standing complete justified, like you never did it in the first place. Hallelujah. Talk about a Thanksgiving. I feel real good. I'm more thankful for that than anything I know of. You are the pure, virtuous, sinless bride of the
Premièrement, pendant un court instant, vous entendrez Frère Branham prêcher en anglais. Puis vous entendrez la traduction française de ce message.
The blood of Jesus Christ, how can you, if a man, if I was supposed to die in the morning, a man took my place, I cannot die for that sin. Somebody took my place. And Jesus, the Word, took my place. He become me, a sinner, that I might become Him, the Word. Amen. Let me hold true to it. Not the church, the Word. Amen. Amen. Oh, that spiritual union of Christ in His church now, when the flesh is becoming Word and Word is becoming flesh. Manifested, vindicated, just what the Bible said would happen in this day. It's happening. Day by day. What's accumulating so fast out there, those deserts and things taking place, that I couldn't even keep up with it. We're near the coming of Jesus to be united with His church, where the Word becomes the Word. Call of the Holy Spirit searching the heart. You're standing completely. You never sinned in the first place. God don't even know that. It's in the sea of forgiveness. You never did it. You were accused of it by the accuser. But really, from the beginning, you were predestinated to be a son and daughter of God. You're standing there washed, and your old book of divorce was put away, and it's dead. Absolutely out of existence, even in the mind of God. You're the virtuous bride of Christ, washed in the blood of Christ. Precious, virtuous, sinless Son of God, standing with a pure, unadulterated bride, Word, that He washed by the water of His own blood that become flesh and manifested, that He might take you, which were predestinated in the bosom of the Father before the beginning, the same as He was. He was that great attribute of God called love. Whatever you are, you're a service of God. Whatever God wants you to do, where your place is, God placed in the church.
J'ai annulé la partie de chasse afin de pouvoir servir le Seigneur. Nous sommes heureux d'être ici. Je crois que je vous ai dit la dernière fois que chaque fois que nous venons, il manque quelqu'un. Ainsi, si nous revenons l'année prochaine et que le Seigneur tarde, il manquera quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'était très proche de cœur et d'esprit. C'était Frère Lyle. Il m'a toujours bien accueilli, et tandis que je me tenais dans le bureau de Frère Jack, j'écoutais chanter le vieux quatuor. Il chante de la gloire ce soir. Eh bien, une de ces voix attend déjà les trois autres là-bas. Ainsi, je ne l'entendrai jamais plus ici sur cette terre, mais je me réjouis certainement de l'entendre à nouveau, frères et sœurs morts et les autres, dans ce pays où il ne fera plus jamais nuit. Frère Palmer fut un grand serviteur de Christ. Je peux me souvenir de frère Jack lorsqu'il me parlait de sa vie consacré à Dieu. Ils furent ensemble charpentiers. Il disait que lorsqu'il mangeait son dîner, son sandwich à la main, il mangeait un sandwich tout en lisant sa Bible. Voyez-vous, frère Palmer fit de grandes choses, vraiment. Il fut un bon charpentier, un bon père pour ses enfants. Il avait une gentille famille. Il les éleva tous en vue de servir le Seigneur. Pour autant que je sache, ils sont tous sauvés et remplis du Saint-Esprit. C'est une grande aide de nos jours pour chacun, garçon et fille. Tout en remarquant ce qu'il a bien pu faire, cela ne représenterait pas beaucoup s'il n'avait servi Dieu. Et ce soir, il est allé chercher sa récompense pour l'œuvre qu'il a accomplie sur la terre. Que Dieu accorde le repos à l'âme de notre frère. Je sais que tant que ce lieu sera un tabernacle, je sais que vous, sa voix continuera à être ici. Sœur Anna Jean et sa sœur tenaient l'orgue et le piano. Elles n'avaient jamais à attendre. Frère Palmer se tenait ici, il choisissait le cantique et commençait aussitôt. Alors elle le rattrapait. Je me réjouissais de l'entendre diriger les chants. Que Dieu bénisse ses chers enfants et son épouse. Aussi frère Jack, son ami intime. Ils avaient été amis pendant tant d'années. Et frère Brown, sœur Brown, et vous tous du tabernacle. À moi aussi, il me manque. Que Dieu accorde le repos à cette belle âme, jusqu'à ce que nous le rencontrions dans la paix, inclinant nos têtes. Père céleste, plein de grâce, alors que nous parlons de ce grand serviteur, j'ai l'ennui de lui ce soir. Je me rappelle encore lorsqu'il me serrait la main, avec ce petit sourire qu'il avait toujours lorsqu'il disait « Dieu vous bénisse, frère Branham », alors que nous passions la porte. Je sais qu'il est monté dans ta maison ce soir. Alors je te prie, Dieu bien-aimé, afin que les fruits et les œuvres qui lui survivront soient glorieuses à travers ses enfants et son épouse. Nous te prions de la bénir, Seigneur. Tu as dit que tu serais un mari pour les veuves qui le sont véritablement. Je prie pour notre sœur Palmer et pour tous ses enfants. Je puis sympathiser avec eux, ayant perdu une compagne et aussi mon père. Alors que nous sommes ici ce soir, nous te prions, Père, de préparer aussi nos cœurs pour cette heure. Nous ne savons pas, mais elle pourrait nous surprendre aussi soudainement que ce fut le cas pour lui. Nous ne savons pas quand elle viendra, mais nous savons qu'elle doit venir. Ainsi, nous te prions, Seigneur, de sonder chaque cœur ce soir. Ô Dieu, ne laisse pas le mien de côté. Sonde-moi aussi et éprouve-moi. Seigneur, s'il y a quoi que ce soit de mauvais en nous, ôte-le. Nous voulons te servir. C'est notre seul objectif, te servir.
Amen.
Réponds ton esprit sur nous ce soir. Et sur le reste de la semaine. Bénis ce tabernacle qui porte le nom du tabernacle de la vie. Puisse-t-il, à cause de ce nom, recevoir de pleines bénédictions et être rempli de la vie de Dieu cette semaine. Sauve chaque âme perdue, remplis chaque croyant du Saint-Esprit et renouvelle les espoirs qui sont en nous, Seigneur. Nous te prions aussi de guérir tous les malades et les affligés qui viendront parmi nous. Puisse ton glorieux Saint-Esprit être ici, Seigneur, et qu'il guérisse et oigne chacun afin qu'il croie. Accorde ces choses, Père. Ô Dieu, aide-moi maintenant, puisque c'est mon tour d'apporter le message. Je te prie, ô Dieu, de mettre ce qui est de l'homme de côté. Puisse le Saint-Esprit venir sur nous, Seigneur. Puisse le Saint-Esprit diriger la réunion, Seigneur. Nous savons que nous sommes tellement insuffisants, nous ne pourrions le faire, aucun de nous. Nous ne prétendons donc pas pouvoir le faire. Seigneur, nous savons que c'est toi. Alors nous regardons à toi, Seigneur. Viens, Esprit de Dieu, et descends tout à nouveau sur nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Maintenant, je désire saluer toutes les églises des États-Unis qui sont reliées. Nous sommes raccordés par téléphone grâce à un système ingénieux que nous avons pu obtenir par notre frère Perry Green de Beaumont au Texas. Ainsi, les églises qui suivent parfaitement le message à travers tous les États-Unis sont reliées à nous ce soir. Nous adressons nos salutations à toute la côte ouest, de Vancouver au nord à Tijuana au Mexique. En passant par San José, Los Angeles, tous les groupes là-bas, nous vous saluons de Shreveport. De même à Prescott, en Arizona, au groupe qui là-bas compte sur le Seigneur, nous vous envoyons nos salutations. Et à Tucson, ainsi qu'à Sierra Vista, et jusqu'à New York, du nord au sud du pays, que le Seigneur vous bénisse chacun. J'aimerais que vous soyez ici ce soir, dans ce bel état de Louisiane, que je considère comme un deuxième chez moi. Vous savez, vous les gens de New York, je plaisante parfois un peu sur votre manière de parler. Ce soir, je suis chez moi. Ici, vous savez, tout le monde dit « Bonjour, cher frère Branham, amenez sœur Branham et tous les jeunes, venez nous voir. » Oh, ça me fait du bien. C'est du véritable anglais pour moi. Ce n'est pas pour vous sous-estimer, vous les gens de l'Est et du Nord et d'ailleurs, mais vous savez, je crois que je suis né un vieux Reb et je vais devoir rester ici. Personnellement, je l'apprécie. C'est du véritable anglais pour moi. Il n'y a pas longtemps, j'étais ici à un déjeuner des hommes d'affaires et dire « Nous allons nous lever et chanter l'hymne national. » Je me levais et dis « Pour ma vieille patrie du Kentucky, tout là-bas, que voulez-vous pour moi ?» C'était ça l'hymne national. C'est tout ce que je savais. Ainsi, nous vous envoyons nos salutations. Et maintenant, pour les... Je crois qu'on va essayer de diffuser aussi le déjeuner des hommes d'affaires samedi matin. Frère Green vous en parlera. Il se tient près des microphones là-bas, ainsi il vous dira à quelle heure le déjeuner commence et à quelle heure chaque soir vous pourrez vous mettre à l'écoute. Nous vous remercions beaucoup et vous demandons de prier pour nous. Maintenant, à l'église locale d'ici et au tabernacle de frère Jack, j'aimerais juste vous demander une faveur ce soir. Étant donné que je vais donner mon message de Thanksgiving ce soir à travers le pays, à l'intention de nos églises locales qui suivent le message, il se peut que je sois un peu long et que je prêche sur la doctrine. Alors, si tel est le cas et que vous ne soyez pas d'accord, comme j'ai toujours dit au sujet des tartes aux cerises, lorsque je tombe sur un noyau, je ne jette pas la tarte pour autant, mais je jette simplement le noyau et continue à manger la tarte. Ainsi, si je reviens ce soir à mentionner quelque chose, eh bien, la raison pour laquelle j'ai accepté l'invitation ce soir d'apporter ici mon message de Thanksgiving aux communautés de tout le pays, c'est que frère Jack m'a toujours ouvert ses portes toutes grandes me disant « Prêche ce que tu as sur le cœur ». Ainsi, je me sens vraiment à la maison. Mais il se peut qu'ici, dans l'assemblée locale de frère Jacques, il y ait des prédicateurs et quelques personnes qui ne soient pas d'accord avec ma doctrine. D'habitude, j'ai la courtoisie de ne pas parler de doctrine à la chair d'un homme qui m'a invité à venir parler à sa place. Ainsi, à partir de ce soir, je pense que je prierai simplement pour les malades, procédant comme d'habitude. Mais j'ai voulu vous prévenir que si j'allais prononcer quelque chose de désagréable, eh bien... que vous le preniez comme venant d'un ignorant, ne sachant rien de mieux, et priez simplement pour moi. Bien, maintenant, prenons de la parole un chapitre auquel je désire me référer plusieurs fois ce soir, parce que j'ai relevé différents passages des Écritures et inscrit quelques notes sur un carnet. Je me souviens que la première fois que je suis monté sur la plateforme du Life Tabernacle, il y a 20 ans, je n'avais pas eu besoin d'inscrire les passages des Écritures et mes références. C'est que j'avais 20 ans de moins. Mais maintenant, j'ai passé 25 ans pour la deuxième fois. Ainsi, je n'ai plus la même mémoire qu'alors. Je dois relever mes passages de l'Écriture et parfois, brièvement, une chose à laquelle je désire me référer. Maintenant, que le Seigneur nous bénisse alors que nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Romains au chapitre 7. Je veux vous enseigner cela sous forme de leçon d'école du dimanche. Je sais qu'il y a des gens debout, c'est ainsi généralement au tabernacle à Jeffersonville. Nous voulons aussi vous saluer tous ce soir, nous savons que là-bas, au tabernacle, vous êtes en liaison avec nous. C'est comme si j'étais au tabernacle ce soir. Si vous étiez ici, vous verriez des gens serrés, debout le long des murs. J'imagine que c'est le même cas chez vous, avec tous les gens qui sont venus de la région afin d'écouter le message. Bien, nous allons développer ceci sous la forme d'une leçon d'école du dimanche. Ceci n'est pas dirigé contre qui que ce soit, c'est simplement pour l'Église, le corps de Christ, que nous essayons de conduire vers des pensées plus profondes et des objectifs plus élevés, croyant que la venue du Seigneur Jésus est imminente. Nous en sommes convaincus. C'est plus proche de 20 ans lorsque pour la première fois je suis venu à Shreveport. Oh, tant de choses se sont passées depuis lors. Maintenant, nous nous réjouissons de la venue du Seigneur dans notre génération.
Amen.
Je n'attends pas de réveil dans notre génération. J'attends la venue du Seigneur dans notre génération. Maintenant, dans Romains 7, nous souhaitons que vous avez vos Bibles ouvertes partout dans le pays. Nous voulons lire attentivement le message que voici semble traiter du mariage et du divorce. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Pour moi, il s'agit d'une prophétie destinée à l'Église des derniers jours. Lisons. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Prions maintenant. Ô Dieu bien-aimé, nous venons de lire ce que nous croyons être la sainte parole de Dieu. Et nous croyons que pas un iota ni une virgule ne passeront que ceci soit parfaitement accompli. Nous croyons la déclaration de notre Seigneur dans Apocalypse, chapitre 22, qui dit que quiconque retrancherait ou ajouterait une parole, sa part serait retranchée du livre de vie. Et nous voyons qu'une interprétation fausse de cette parole, comme Satan l'a fait pour Ève, qui l'a amenée à douter d'un mort, a fait chuter la race humaine entière et l'a jetée dans un chaos. Juste un mort. Puis nous voyons au milieu du livre que notre Seigneur et Sauveur vint et qu'il nous donna à ce sujet cette citation. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis la mise en garde solennelle dans le dernier livre de l'Apocalypse de Jésus-Christ. Quiconque ajoutera un mot ou retranchera un mot, sa part sera retranchée du livre de vie. Ô Dieu, sachant et voyant combien nous sommes fragiles, alors que nous marchons sur les fils ténus de la vie, de cette vie mortelle, ne connaissant pas l'heure à laquelle nous allons être appelés là-haut à répondre. Ô Seigneur, puissions-nous laisser de côté toutes choses dans nos cœurs et dans notre esprit, et regarder à ta parole ce soir, et puisses-tu venir l'interpréter en un oracle vivant. Accorde-le, Seigneur, puisse ton esprit tomber sur nous et oindre ses paroles dans nos cœurs, afin qu'en partant d'ici ce soir, nous soyons meilleurs, que nous ayons une connaissance plus approfondie de Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur, afin que nous puissions comprendre le jour dans lequel nous vivons et que Dieu prépare son peuple en cette heure, cette époque cruciale et sombre que nous traversons. Ô Dieu, oins-nous, non seulement l'orateur, mais l'auditeur, et que nos cœurs à tous tremblent à ta parole. Car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Accorde ces choses, Père, car nous te les demandons au nom de Jésus. Amen. J'aimerais intituler les quelques remarques que je vais faire ici, ainsi que les passages de l'Écriture qui feront suite, Dieu voulant, comme message de Thanksgiving, l'union invisible de l'épouse de Christ. L'union invisible de l'épouse de Christ. Cela n'a pas l'air d'un message de Thanksgiving, quoique toute Écriture, nous en sommes reconnaissants. Je suis reconnaissant à Dieu de vivre en ce temps où se déroule la dernière scène de l'histoire du monde. Je ne sais pas, mais si j'avais eu mon mot à dire avant la fondation du monde, et que Dieu m'ait présenté tout son programme en me disant « Je veux que tu prêches. Maintenant, dans quel âge désires-tu aller sur terre pour prêcher ?» J'aurais choisi cet âge-ci, car je pense que c'est l'âge d'or. J'aurais certainement aimé être ici à l'époque de son passage sur la terre. Mais je crois cependant que ce temps-ci est plus grand, parce que c'est l'heure de sa venue pour enlever ceux qu'il a rachetés et d'appeler à la résurrection tous les siens. Quelle occasion glorieuse nous avons de parler à un peuple qui se meurt. C'est une grande époque. Cela nous enthousiasme et nous savons que l'histoire arrive à sa fin. L'histoire du monde est bientôt terminée. Nous entrerons alors dans un jour nouveau, le grand millénium. Comme tout croyant, je crois en un millénium, un règne de 1000 ans avec Christ, 1000 ans sur la terre. Le retour physique du Seigneur Jésus pour emmener un peuple physique, glorifié par son sang purificateur. Paul ici dans les Écritures donne une illustration de la loi et de la grâce. Il illustre sous la forme du mariage et du divorce. Il est très rarement prêché sur ce passage parce qu'il traite plus ou moins du mariage et du divorce. Mais il a un autre aspect plus grand du mariage et du divorce. Il essaye de mettre de l'ordre pour montrer que nous, en tant qu'Église, ne pouvons pas plus être mariés au monde et en même temps à Christ, et pour autant rester dans la légalité, qu'une femme ne peut vivre avec un autre homme alors que son mari est encore en vie. J'ai ma propre idée là-dessus, et je crois que ce que la Bible dit est la vérité. Je crois aussi que cela révèle l'un des grands mystères de la prophétie. J'espère que le Seigneur nous aidera ce soir à apporter ceci à nos frères dans l'attente dans tout le pays. On a dit une fois, je l'ai lu alors que j'inscrivais une note se rapportant à ceci, je ne peux pas me souvenir exactement du livre dans lequel ça se trouvait, mais je suis sûr que c'est juste. C'était l'un des livres que j'ai lu sur Monsieur Moody, Dwight Moody, à Chicago. Nous avons aussi une grande église à l'écoute à Chicago ce soir. Après avoir lu Romains 7, Monsieur Moody courut dans la rue et demanda au premier homme qu'il rencontra, « Connaissez-vous la grâce ?» Et l'homme répliqua, « Grâce qui ?» Grâce peut aussi être un prénom en anglais. La grâce de Dieu, dit M. Moody. Ainsi, l'homme fut si bouleversé lorsqu'il vit comment la grâce nous avait séparés de la loi et quel rôle elle remplissait. J'ai toujours dit aux gens que lorsque je franchirai la ligne pour passer de l'autre côté, j'aimerais me lever et chanter « Grâce extraordinaire qui a sauvé un méchant comme moi, que le sang en est doux. Grâce, précieuse grâce, en savoir plus sur la grâce, car c'est par grâce que nous sommes sauvés, non par nos actions. Ce que nous pouvons, tout ce que nous pouvons faire n'est pas compté en notre faveur. La grâce est ce qui nous sauve. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Puis-je ajouter quelque chose au sujet de cette femme appelée Grâce? Puis-je la placer dans la Bible où est aussi appelée la Dame élue? Cette demoiselle Grâce dont je vais parler, vous savez que la Bible déclare « à la Dame élue ». Si vous remarquez, « élue » vient de l'expression « la Dame qui a été élue ». Une Dame entre toutes fut élue, comme la Vierge qui devait apporter le corps de Dieu sur la terre. Elle était une femme élue. Dieu choisit Marie. De même, Dieu a choisi une dame élue qui est son épouse. Elle est l'élue. J'espère que ce soir, à travers le monde, ou plutôt à travers le pays, nous en sommes membres. Cette illustration montre la relation de l'épouse avec Christ. La dame élue. Comment elle lui serait amenée, d'où elle viendrait, et comment elle lui serait amenée. L'Église que nous avons ici, dans la représentation que nous avons devant nous, est illustrée par une femme. Or, une femme est toujours un type de l'Église, parce que l'Église est considérée comme une épouse. Une épouse. Elle est l'épouse du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Toujours, si vous remarquez, voyez la situation et la conduite des femmes, et vous verrez à quoi en est l'Église. Maintenant, quelques-unes de ces remarques peuvent paraître étranges à certains d'entre vous, mais c'est flatteur vis-à-vis du message que j'ai reçu du Seigneur et que j'essaie d'apporter aux gens. Voyez-vous, observez tout ce qui se passe dans le naturel, la nature, et vous verrez que cela se retrouve dans le spirituel. Maintenant, voyez la conduite des femmes dans le monde d'aujourd'hui. Observez la conduite de l'Église mondaine, aujourd'hui également. Observez simplement, certes, il y a la conduite de l'épouse spirituelle, l'Église. Mais voyez, observez, car la naturelle se réclame aussi d'être l'épouse. Maintenant, laissez-moi, s'il vous plaît, dire encore quelque chose à l'Assemblée locale. Ne soyez pas en peine. Maintenant, je suis en train de parler à tous ceux qui, à travers le pays, représentent selon moi la Dame élue. Alors, s'il y a ici des prédicateurs qui ne sont pas d'accord, eh bien, restez tranquille un petit moment, voyez-vous. Écoutez. Remarquez ce caractère. Lorsque vous voyez les femmes attirer l'attention sur elles par leur comportement tapageur, alors observez l'Église, c'est la même chose. Mais observez l'épouse spirituelle, lorsqu'elle commencera à avoir un réveil, lorsqu'elle commencera à s'aligner sur la parole de Dieu, alors observez à nouveau, voyez-vous comment les Écritures, comment à ce moment-là un message balayera le monde pour enlever cette épouse, pour prendre cette femme élue. Car de même que le monde, Satan, l'imposteur, trompa la première épouse et l'amena à pécher contre Dieu en mettant en doute sa parole. Et maintenant de nos jours, de même que nous voyons l'Église naturelle, avec son évangile intellectuel, s'éloigner toujours plus de la parole vers un évangile social, nous voyons aussi que les femmes du monde, dans la rue, et qui en sont membres, vivent dans la même ambiance. Vous ne pouvez pas le leur dire. Elles ont perdu toute notion de ce qu'est la décence. Oui, elles les visent aussi. Et vous pouvez la voir se diriger à grands pas vers le conseil œcuménique, sans l'ombre d'un doute. tout droit vers Rome. Vous voyez, car cela a été prophétisé, et la voilà, c'est son comportement. Mais alors, observez à nouveau l'Église spirituelle, ce groupe de gens appelés hors d'eux, les élus, à travers chaque réveil, sous Martin Luther à la Réforme. Cela se produisit de la même manière. Il arrive à la même chose au temps de John Wesley. Il arrive à la même chose lorsque la Pentecôte commença. Ils ramenèrent ces femmes bien en ligne avec la parole, mais ensuite, ils se mirent à dériver. Et la voici que retourne au chaos. Mais dès que les gens sont prêts à s'aligner, un message apparaît et s'aligne avec lui. Luther fut le messager au temps de la justification, et l'Église s'aligna là-dessus. Certains d'entre eux, les autres continuèrent. Wesley vint avec la sanctification, l'Église s'aligna là-dessus. Le pentecôtisme vint avec la restauration des dons, l'Église s'aligna là-dessus. Les élus de ce jour, puis elle s'étiola, retourna droit au dénominationalisme et retrouva les autres, et ainsi de suite. Mais vous remarquez que lorsque les gens commencent à essayer de s'aligner sur la parole, alors un message frais, tiré de la parole de Dieu, vient tout droit vers les gens, et cela a gardé ce message pur chaque fois. C'est juste en Dieu, c'est ce qui arrive. Nous avons des familles, chaque famille ici est habituée à cela. Parfois, tout va bien pour vous pendant des années, puis tout à coup, vous passez par une période où, comme nous disons ici, dans le sud, lorsqu'il pleut à verse. Alors tout va de travers, vous passez par un temps d'obscurité, puis vient l'aurore, puis vient de nouveau la nuit, tout marche dans la continuité. Ici, Paul, le prophète, dit qu'une femme ne peut se remarier à moins que son premier mari ne soit mort. Elle ne peut se remarier aussi longtemps que son premier mari est en vie. En aucun cas, elle doit rester seule aussi longtemps que son premier mari est en vie. Et si elle commet un tel péché, elle sera appelée à l'adultère. Je parle maintenant de la naturelle afin de la comparer à la spirituelle. Si cette femme a commis un tel péché, alors elle est considérée comme une adultère, si elle a deux maris en vie en même temps. En faisant cela, elle a perdu ses droits envers Dieu et le ciel. Assurément. Conformément à la parole que je viens de lire, elle est rejetée de l'économie de Dieu. Il en est de même de l'Église, lorsqu'elle essaie de mêler des credos, des dogmes à la parole de Dieu. Elle ne peut être mariée à une dénomination et être l'épouse de Christ en même temps. Elle doit être morte pour l'un ou pour l'autre. La loi le dit ici. Il y a beaucoup d'ordonnances dans la parole de Dieu, et c'est sa loi. Paul dit la même chose ici. Elle ne peut être mariée à une église à credo mondain et être l'épouse de Christ, parce qu'elle, l'un va à l'encontre de l'autre. Maintenant, souvenez-vous, vous dites, eh bien, nous croyons à ceci, mais nous ne croyons pas cela. Si vous êtes marié à Christ, Christ est la parole de Dieu. Dans Saint Jean, au premier chapitre, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la même parole fut faite chair et habita parmi nous. Christ était la parole vivante. Il fut toujours la parole, il est encore la parole, il sera toujours la parole.
Amen.
Il fut seulement la manifestation des attributs de Dieu. Car il était le Fils de Dieu et tout Fils est la manifestation des attributs de son Père. Il en est de même pour vous lorsque vous étiez dans les gènes de votre Père, dans le corps de votre Père alors qu'il était un jeune garçon. Vous étiez en lui, mais il ne pouvait pas être en communion avec vous, car il ne vous connaissait pas. Mais ensuite, à travers le sein d'une mère, vous avez été amené sur la terre et êtes apparu à l'image de votre Père qui a pu entrer alors en relation avec vous. Ainsi, vous étiez fils de Dieu et fille de Dieu, avant même qu'il y eût une lune, une étoile ou une molécule. Vous étiez fils et fille de Dieu, car vous êtes seulement les manifestations physiques des attributs qui étaient en Dieu au commencement. Il n'y a qu'une forme de vie éternelle, et c'était avant que vous n'en savez rien, vous n'en saviez pas davantage lorsque vous étiez en votre Père terrestre. Mais vous êtes manifesté à son image. vous êtes fait à l'image de Dieu et vous avez été manifesté pour la gloire et la communion avec Dieu.
Amen.
C'est pourquoi de même que vos gènes devaient être en votre Père avant votre naissance naturelle, vos gènes spirituels devaient être en Dieu parce que vous êtes une expression des attributs de ses pensées avant la fondation du monde. Il n'y a pas d'autre possibilité, c'est juste. Maintenant remarquons, cette vie était en vous. La vie de Dieu était en vous dès la fondation du monde. Maintenant, vous ne pouvez pas mélanger le credo d'une dénomination avec la parole, parce qu'ils sont contraires l'un à l'autre. C'est pourtant ce que Satan essayait de faire avec Ève, avec ses conceptions intellectuelles. Il dit, il admit que Dieu avait dit cela, mais il dit, vous ne mourrez certainement pas. Vous voyez, ils crurent cela. Et c'est ce que les credos ont fait. Les dénominations ont séparé les gens de la parole de Dieu. Lorsqu'il est venu, Jésus n'a-t-il pas dit, « Vous, par vos traditions, avez rendu les commandements de Dieu sans effet sur les gens ?» Et par nos credos, nous avons brisé la communion du Saint-Esprit. Là, pour voir la parole de Dieu dispensée à cette génération, nous avons séparé les gens par les dénominations, si bien qu'ils ne peuvent avoir une chance de le voir. Maintenant, Dieu, dans chaque génération, ajoute une nouvelle partie de son livre. Tout cela va ensemble, à l'exemple de mon corps qui fut constitué. On me dit que cela commença par l'épine dorsale, mais tout n'était pas l'épine dorsale. À cela s'ajoutèrent les côtes, les poumons, les mains, les bras, les pieds, etc. Et ça finit par être la personne que je suis. C'est ainsi que Dieu fut manifesté au commencement. Finalement, il apparut comme Jéhovah, Dieu le Père. Puis il apparut comme Dieu le Fils dans Jésus-Christ. Maintenant, il est apparu comme Dieu le Saint-Esprit, le même Dieu tout le temps. Trois manifestations du même Dieu. Nous voyons ainsi que pour chaque génération, Dieu a distribué sa parole depuis le commencement, de la même manière dont a eu lieu l'évolution. De même, la première chose que Dieu créa fut probablement, disons qu'il commença par créer la vie végétale, puis il créa la vie animale, ensuite il créa la vie humaine, suivant une sorte d'évolution. Il aurait été de même avec Dieu, avec son Église, la justification sous Luther. Maintenant, il fait sortir son épouse, il crée son épouse, la justification sous Luther, la sanctification sous Wesley, et ainsi de suite. Vous voyez, l'évolution de l'esprit se précise toujours plus, parce que le corps est en train d'être construit, il arrive à la tête qui est Christ, le corps de Christ. Maintenant, en tant que femme, c'est la mariée à Christ, la parole, elle ne peut être mariée à une église dénominationnelle en même temps, car elle est déjà liée par le mariage. Elle ne peut pas vivre avec deux maris en même temps. Ils sont en opposition l'un à l'autre. L'un est envoyé de Dieu, l'autre est fait de main d'homme. Ils sont contraires. Il a dit que toute parole d'homme soit un mensonge et la mienne la vérité. Dieu a dit cela. Aussi contraires l'un à l'autre que la loi l'était à la grâce, comme Paul le dit ici. L'un doit être mort pour avoir l'autre. Si elle essaye d'en avoir deux, elle sera appelée adultère. Oh, pensez-y! Vous qui êtes à New York ou en Arizona, dans tout le pays, pensez-y! Dieu a dit que si elle essayait d'être mariée à deux hommes en même temps, elle serait appelée adultère. Quel adultère peut entrer au ciel? Dieu épouserait-il une adultère? Certainement pas. Il nous a demandé de ne pas le faire. Elle sera appelée adultère. Ensuite, ses enfants, cet adultère, ses enfants sont illégitimes. Illégitimes. Illégitimes envers qui? Pas envers l'Église, mais envers la parole. Elle est illégitime. Quelle image d'Apocalypse 3 nous avons ici, l'âge de l'Église de Laodicée des derniers temps. Quel groupe d'illégitimes. Quel mélange dénominationnel de tiède. Ils se conduisent mal, s'appellent chrétiens tout en reniant la parole de Dieu. Ils donnent forme de piété, mais nient ceux qui ont fait la force. Ainsi que le prophète l'a annoncé, le mariage est la plus vieille institution du monde. Le mariage eut lieu et fut institué pour la première fois au Jardin d'Éden. Une femme est dotée de certaines qualités qu'elle ne doit pas déshonorer. Une femme en reçoit la garde. Il n'y a pas de créature sur terre comme la femme. Il n'y a pas de chienne, il n'y a pas de femelle d'aucune sorte ayant reçu un caractère comme la femme. La femme ne se trouvait même pas au commencement de la création, parce que Dieu savait qu'elle chuterait. Toutes les autres femelles ne pouvaient pas commettre adultère. Elle est la seule à pouvoir commettre adultère. Si elle avait été faite comme l'original, cela serait venu à l'encontre de la grande sagesse de Dieu. Vous voyez, elle fut faite le sous-produit d'un homme, mais parce qu'elle fut rejetée de ce côté, elle a aussi reçu de Dieu une tâche sacrée. En vue de la rédemption, elle a reçu des qualités qu'elle ne doit pas déshonorer. Si elle les souille, elle est déshonorée pour le reste de sa vie. Peu importe qu'elle soit pardonnée, elle ne peut pas être justifiée. Je reviendrai là-dessus dans un moment. Je prendrai un passage de l'Écriture qui traite de cela dans quelques minutes. Elle peut être pardonnée de sa souillure, mais elle ne peut pas être justifiée dans cette vie. Cela la suit toujours. Maintenant, remarquez, elle a reçu ceci. Elle peut être pardonnée, mais pas justifiée. Son corps lui est donné en dépôt sacré de Dieu. Aucune chienne, aucune femelle d'oiseau, aucun autre animal, aucune autre créature n'est ainsi. Non, elle est la seule. Par cela, elle est... La raison pour laquelle ceci est si sacré, c'est qu'elle doit amener la vie sur la terre. Son corps est un réceptacle de vie. Ainsi, c'est la raison pour laquelle elle reçoit ce dépôt sacré. Maintenant, c'est ici que beaucoup d'entre vous, théologiens, pouvez être en désaccord. C'est cet adultère qui a pollué dès le commencement toute la race humaine. Son sein fut souillé. Elle mit au monde des jumeaux, Cain et Abel, un acte, deux enfants. Sondez les Écritures. Remarquez, nous voyons maintenant que son corps est un réceptacle et que par conséquent, c'est un dépôt sacré qui ne doit pas être souillé. Maintenant, j'amène cela pour illustrer, pour montrer où en est l'Église. Je ne parle pas de vous, femmes, quoi que vous soyez, ou de vous, hommes, ceci est entre vous et Dieu, mais je parle de l'Église et de Christ. Ainsi, il appartient à la femme de transmettre la vie que Dieu seul peut donner. Son mari peut être le porteur de germes, mais Dieu doit produire la vie. C'est juste, cela doit venir, toute vie doit venir de Dieu. Toute vie doit venir de Dieu. Mais parce que c'est perverti, c'est ce qui fait que c'est un péché. Mais la vie doit venir de Dieu, il est l'auteur de la vie. Ainsi et là, d'abord je veux citer trois choses dont elle ne doit pas s'éloigner. Maintenant, gardez à l'esprit l'Église, pendant que je dis ceci à la femme naturelle, comme Paul le fait ici au 7e chapitre des Romains. Son Seigneur lui a confié un dépôt de vertu, une certaine vertu. Personne ne détient ce dépôt, si ce n'est la femme. C'est vrai, il lui est confié par Dieu. Elle ne doit pas souiller cette vertu. Si jamais elle fait quelque chose de faux, elle doit le confesser à son mari avant qu'il ne la prenne. Et rétablir la chose. C'est pareil pour l'Église qui veut marier la loi, elle doit aussi venir devant Christ. Avant le second mariage, elle doit confesser cela. Si elle ne le fait pas et qu'elle vient avec son mari 10 ans, elle le confesse alors, il a le droit de la répudier et de marier une autre femme. C'est l'Écriture. La fornication est une vie impure. Joseph ne craint pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'il a conçu vient du Saint-Esprit. Il se proposait de rompre secrètement avec elle, voyez-vous, alors qu'il était déjà fiancé à elle. Pour Dieu, lorsque vous êtes fiancé à une femme, vous êtes marié avec elle. Remarquez, elle détient un dépôt sacré de vertu, qui lui a été donné, qui lui a été confié par le Seigneur. Dieu lui a fait don de cette vertu. De même qu'au jardin d'Éden, elle peut dire oui ou non. Elle s'est vue confier un dépôt sacré de féminité, qu'elle ne doit pas briser. La féminité dont je parle ici, c'est sa conduite, son comportement vis-à-vis des hommes. Ne pas permettre à chaque homme, Regardez ces écrans et voyez comment ces acteurs de cinéma embrassent, étreignent et se vautrent avec ces femmes. Une femme qui fait cela a un mauvais comportement. Elle peut bien être vertueuse autrement, mais voyez-vous, dans son cœur, lorsque ses glandes, les glandes sexuelles sont dans les lèvres, et lorsqu'un homme baise une femme, il commet en fait potentiellement adultère avec elle. Les glandes sexuelles sont dans les lèvres de la femme et dans les lèvres de l'homme. S'il lui baisait la main, cela n'exciterait pas les glandes sexuelles, mais les glandes sexuelles sont dans les lèvres. Voyez toute cette absurdité et l'Hollywood d'aujourd'hui, avec ce comportement malsain, l'amour libre avec les femmes et tout cela. Et de petites filles, regarde cela. Ce n'est pas étonnant que notre morale soit pourrie, décadente et corrompue. Car c'est exposé devant des enfants, c'est vrai. Il doit en être ainsi dans les derniers jours. Maintenant, gardez à l'esprit l'Église. Elle l'embrasse, elle se vautre dans n'importe quoi, et s'unit à tout, sauf à la parole. Vous laissez le diable, l'éducation et les recherches scientifiques, etc., alors que l'éducation scientifique et tout le reste sont absolument contraires à Dieu. Tout le système de civilisation que nous avons maintenant est absolument antichrist. Le système d'éducation est antichrist. La civilisation est antichrist. C'est contre Dieu. Vous dites contre la civilisation? Un de ces jours, Dieu aura une civilisation à laquelle la mort ne sera aucunement associée. Cette civilisation moderne vient de Satan. Je vous le prouverai, Dieu voulant ce soir, au moyen de la Bible. Toutes ces choses sont de Satan. Notre nouvelle civilisation n'aura rien à faire avec cela. Elle a une féminité sacrée. Ce n'est pas étonnant que les hommes agissent de cette façon avec les femmes. C'est parce que les femmes se comportent de cette manière avec les hommes. Elles se présentent dans la rue dans des shorts qui collent au corps, des vêtements d'hommes, etc., en se dandinant. Peu importe ce qu'elle dit, elle peut être parfaitement vertueuse à l'égard de son mari, mais aux yeux de Dieu, elle est adultère. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Elle s'est présentée ainsi dans ce but. C'est exactement ce que l'Église a fait avec le monde. Remarquez, ce qui lui était confié, la vertu sacrée, la féminité sacrée, puis la maternité sacrée. Tout cela pour honorer son mari. Regardez aujourd'hui, dans certaines villes, dans beaucoup de villes, la société, comme on l'appelle, organise de grandes réceptions auxquelles même des membres d'Église s'associent. Ils posent leur chapeau par terre, s'enivrent tous, et finalement chacun jette sa clé là-dedans. Chaque femme va ramasser une clé dans le chapeau de l'homme avec qui elle passera le week-end. Toutes sortes de divertissements pareils, qui, j'ai tant de choses à dire ici, si le Seigneur le permet, que je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. Une telle corruption! Et l'Église est tout aussi corrompue, c'est vrai. Elle commet adultère avec toutes choses. Elle n'a rien à faire. Elle devrait rester avec la parole. Les immeubles, c'est très bien. Les hôpitaux, c'est très bien. Toutes ces choses, c'est très bien. Les programmes éducatifs, c'est très bien. Nous devons vivre ici, nous devons lire, écrire. Cela fait partie de l'économie. Par exemple, nous n'étions pas censés mettre des vêtements au début. Je prêcherai là-dessus plus tard, cette semaine, Dieu voulant. Mais nous devons porter des vêtements, parce que Dieu nous en a donné. Au début, nous n'en avions pas besoin. Nous étions voilés. Maintenant, un voile l'empêche de voir ses péchés. Elle ne sait même pas qu'elle pêche. Elle a été... Maintenant, elle est voilée par le diable. Jadis, elle était voilée par Dieu. C'est là toute la différence. Donc, nous voyons qu'elle a reçu ce dépôt sacré de féminité qu'elle ne doit pas briser. Devant avoir un bon comportement, bien élever ses enfants, faire honneur à son mari. De nos jours, il prête plus attention au sexe qu'à toute autre chose en ce monde. Vous devriez vous trouver une fois dans mon bureau et voir les hommes qui y viennent avec leurs femmes. Comment ils essaient de se mettre en règle avec Dieu, les femmes confessant toutes les relations qu'elles ont eues avec d'autres hommes et tout le reste depuis leur mariage. On vous dit, ce sont des pentecôtistes, les autres ne viendraient pas. Ah, disait, je parle de combien on peut s'éloigner. Quand on se compromet avec le monde, l'Église, la mode et toutes ces choses, nous ne ressemblons pas plus à la pentecôte originale que le jour et la nuit. Nous avons dérivé quelque part vers un sombre chaos où nous sommes perdus. Quel dépôt sacré, quelle responsabilité pour une femme. Maintenant, voyez pourquoi elle est un type de l'Église. Celle-ci a la même responsabilité
qu'une femme à l'égard de sa maternité, de sa vertu, de son mari. L'Église a une responsabilité sacrée envers la prière, la parole et Christ, de la même manière qu'une femme. À l'exemple d'une femme qui s'en va avec un autre homme, l'Église tomba dans des programmes d'institutions, des programmes de construction d'écoles, etc. Je n'ai rien à contre, c'est très bien, cela a son utilité, mais ils ne sont pas. Jésus n'a jamais dit, allez faire des écoles, il a dit, prêchez la parole. C'est ce qu'il néglige. Il n'est pas question de créer des institutions, des hôpitaux, etc. Toutes ces choses sont bonnes, mais ce n'est pas le devoir de l'Église. Son devoir est de prêcher l'Évangile.
Amen.
Mais nous avons fait tout sauf cela. Et nous avons dérivé comme Satan, en mélangeant un peu de l'Évangile à quelque chose, puis à autre chose encore, jusqu'à ce que ça devienne un agglomérat de rien du tout. De la corruption. Tous veulent suivre la tendance du monde. Il n'y a pas longtemps, je lisais dans le Reader's Digest que des jeunes filles passaient par la ménopause et que des jeunes gens, le retour d'âge entre 20 et 25 ans, quelle corruption! Pourquoi? Parce que la recherche scientifique sur l'alimentation et autres a anéanti les choses naturelles dont nos corps devraient se nourrir. Nous ne sommes qu'un paquet de corruption qui va droit à la mort. Eh bien, voilà aussi ce qu'est l'Église. Elle est dans le même état. Elle est un type. Elle a reçu les mêmes précieuses vertus pour préserver l'esprit et la parole et ne jamais commettre d'adultère avec quoi que ce soit au monde. Restez vierge envers la parole, comme une femme doit rester vertueuse à l'égard de son mari. C'est un dépôt sacré pour honorer la parole de son Seigneur. Par-dessus tout credo d'homme, sagesse, dénomination qu'il puisse y avoir, l'Église a reçu ce dépôt. Ils disent, oh mon Église, peu importe en quoi votre Église croit, si c'est contraire à la parole de Dieu, restez-en éloigné. La Bible déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Marc 16 dit, ces signes suivront ceux qui auront cru. Si l'Église prêche différemment, alors mourrez à cette chose. Naissez à nouveau dans la parole de Dieu. Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Il devait aller aussi loin que cela. Ces signes suivront ceux qui auront cru. Tout le monde, toute créature qui croirait. Voyez-vous combien nous nous sommes éloignés de cela? Certes, mais on est responsable. Mais maintenant, regardez combien Hollywood a arraché la vertu de nos femmes. J'étais assis ici en train de regarder une chère dame âgée. Sœur Schrader, beaucoup de nos sœurs ici et sœurs mortes là-bas, les femmes d'un certain âge, se souviennent qu'il y a quelques années en arrière, si leur mère, ou même elle, était sortie dans la rue comme certaines de nos femmes se promènent aujourd'hui, des membres d'église, on leur est taxé de folle et fait enfermer pour avoir oublié de mettre sa jupe. Si donc c'était considéré comme un acte de folie, ça l'est aussi maintenant. Regardez, le monde prouve qu'il est fou. Regardez les morts très hauts qui se passent maintenant dans le monde. De la folie. Tout ce qui arrive vient accomplir l'Apocalypse. Il se peut que nous y arrivions cette semaine, où ces choses hideuses. Ce ne sont pas des choses appartenant au monde naturel, mais ce sont celles qui se passent dans l'esprit, et qui font que les gens demandent à grands cris que les rochers, les montagnes et tout le reste leur tombent dessus. C'est dans une folie complète et totale que le monde va bientôt tomber. S'il y a presque maintenant, vous pouvez en voir les signes avant-coureurs. Voyez-les-là dans la rue, sur les bancs d'église, la folie au dernier degré. Faire des choses qu'un être humain civilisé ne songerait pas à faire. Regardez ce qu'Hollywood a fait des femmes. Regardez comment il a dépouillé la femme de ses vertus sacrées. Et nous pourrions encore continuer. Voyez tout ce qu'elle a perdu. Comment cela est-il arrivé? C'est qu'il y avait un instrument subtil appelé l'église. De même qu'elle n'avait un dans le jardin d'Éden. Une personne subtile, le diable, entra dans l'église, comme il le fit dans le jardin d'Éden, et c'est en la trompant qu'il l'amena cela. Elle a été trompée, la femme pense qu'elle ne désire pas être dans l'erreur, et elle ne voulait pas agir ainsi, ce n'est pas intentionnellement, mais elle, la Bible dit dans 2 Timothée 3, elle fut séduite. Et séduit, ce n'est pas lorsqu'on décide quelque chose de sa propre volonté, mais c'est quand on est séduit, influencé pour le faire. Et c'est exactement ce qui est arrivé aujourd'hui. Elle était séduite par la télévision, par les journaux, par ces gens, toutes ces choses séduisantes qui sont visibles dans la rue. Les magazines captivent nos jeunes filles modernes, les photos, ce qu'elles voient dans la rue. puis vient l'habillement dans les magasins. Combien Satan, ce grand instrument de l'enfer, qui est descendu parmi les gens, les a séduits à travers ces choses. Et la femme croit que tout va bien pour elle. Elle est morte, elle ne le sait pas. Elle est loin de Dieu. Vous voyez comment elle a perdu tout ce qu'elle a, et de quelle façon subtile. Aujourd'hui, j'aimerais que vous remarquiez que Jésus en a aussi parlé. Si vous désirez le lire, Jésus a mentionné dans les heures qui précédaient sa crucifixion que cette chose se produirait. Le saviez-vous? Lisons-le. Saint-Luc, chapitre 23, et juste un instant, comme une leçon d'école du dimanche, commençons au verset 27. Je crois que c'est ce que j'ai marqué ici. Jésus se rend au calvaire. Écoutez attentivement pendant que je le lis. Très bien, Saint-Luc 23, 27. Je crois que c'est là. C'est ce que mes notes indiquent. Oui, c'est ça. Il était suivi d'une grande multitude de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. » Pensez à aujourd'hui, au déshonneur que c'est pour elle d'avoir un enfant, voyez-vous? Alors ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous !» Car si on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Il parle du jour où les femmes ne voudraient plus avoir d'enfants. Elles veulent un chien ou un chat ou quelque chose de ce genre, mais elles ne veulent plus d'enfants. Pourquoi on les prendrait pour la vieille mère Michel si elles avaient un enfant? Voyez-vous, elle ne veut pas, c'est l'opinion d'Hollywood. On ne veut pas qu'une femme soit une mère Michel. Ainsi, ils préfèrent subir une opération ou en faire subir une à elle qui les empêche d'avoir des enfants. Ils ne veulent pas d'enfants. Jésus en a parlé, et qu'a-t-il dit? En ce temps-là, elle demandera à grands cris que les rochers et les montagnes leur tombent dessus. Elle pratiquera le contrôle des naissances afin de pouvoir continuer à aller à ses réceptions. Elle ne veut pas être dérangée par un bébé qu'elle devrait nourrir. Cela la déformerait. La maternité pourrait la déformer. Alors elle n'aurait plus l'apparence qu'elle avait. Et son mari est assez ignorant pour la laisser agir ainsi. Non, elle ne lui donnera pas d'enfant. Jésus a parlé de cela. Il a dit que lorsqu'elle ferait ceci en ce temps-là, elle demanderait que les rochers leur tombent dessus. Cela vient du Seigneur. Elle paye cher pour dorloter des chats ou des chiens. C'est vrai. Elle doit dorloter quelque chose, parce que c'est la nature que Dieu lui a donnée d'agir ainsi. Jésus a parlé de cela. Elle a dit que lorsqu'elle ferait ceci, en ce temps-là, elle demanderait que les rochers leur tombent dessus. Cela vient du Seigneur. Elle paye cher pour dorloter des chats ou des chiens. C'est vrai. Elle doit dorloter quelque chose, parce que c'est la nature que Dieu lui a donnée d'agir ainsi. Voici ce que j'ai remarqué en chassant le gros gibier. C'est en automne que l'ours s'accouple avec le mâle. La saison précédente, elle m'a mis au monde des petits qui sont maintenant de taille respectable. Ils pèsent peut-être 45 kilos ou plus. Elle va les chasser loin d'elle afin qu'ils hibernent pour leur compte, parce qu'elle va mettre au monde d'autres oursons. Ils naissent en février, l'ours ne le sait pas. Ils naissent dans un petit sac. Dieu les amène à ouvrir ces petits sacs eux-mêmes. Ça a l'air de petits sacs de cellophane. Ils trouvent eux-mêmes le chemin jusqu'à leur mère profondément dormie. Elle n'a rien mangé depuis octobre, et nous sommes en février. Ils s'approchent de la tête jusqu'à mi-mai. Quand elle voit pour la première fois ses oursons, ils sont déjà rondelets, pèsent peut-être 5 à 7 kilos chacun. Ils la tête. Comment elle obtient le lait? Ça, c'est l'affaire de Dieu. Elle vit sur ses propres sources et produit le lait pour les oursons. Mais si l'accouplement ne donne rien, si elle n'a pas d'autres oursons, alors elle ira à la recherche des oursons de l'année précédente et leur servira de mère tout l'été. Parce que c'est un instinct que Dieu lui a donné. Elle doit être mère de quelque chose. Si une femme n'a pas de bébé de son mari, elle prendra un chien, un chat ou autre chose. Elle doit être mère de quelque chose. C'est sa nature. Mais donner un enfant à son mari et l'élever pour le service de Dieu, c'est absolument contraire à sa conception. Si elle le faisait, elle en recevrait un tel affront de la Société des femmes de 1965 qui aime le péché. Voilà l'image authentique d'une église moderne de nos jours. L'Église moderne ne veut pas non plus, autour d'elle, de ces gamins de Actes 2.38 qui poussent des cris et parlent en langue. Elle n'en veut pas de ces « Amen, Alléluia ». Voyons, avec un enfant pareil, elle serait chassée immédiatement de sa dénomination. Si on avait un comme ça dans l'Église, eh bien, il le jetterait immédiatement dehors en disant « Pourquoi permettez-vous de telles choses ?» Ainsi, vous voyez, elle est enceinte de quelque chose, parce qu'elle met tout le temps des membres au monde. Mais elle n'en veut pas qu'ils crient et parlent tout le temps. Acte 2.38. Elle pense que ce sont là des créatures misérables. Ça l'embarrasserait certainement, ça la ruinerait. De même que l'Église, représentée par la société cultivée, éthique, scientifique à laquelle elle appartient, il la jetterait dehors au prochain concile. Elle ne peut pas avoir cela au milieu d'elle. Ainsi, elle ne veut pas être enceinte de la parole, parce que c'est la seule espèce que la parole puisse mettre au monde. Née de l'Esprit de Dieu, elle a l'Esprit de Dieu en elle. Il n'y a pas d'intellectuel, de joignant d'église, de credo, de cheveux courts, de visage fardé. Il n'y a pas de telle chose dans notre parole. Vous ne trouvez pas ça dans la parole de Dieu. Vous y trouvez un enfant démodé, mais sanctifié, rempli du Saint-Esprit. Né de l'Esprit de Dieu, poussant des cris, exaltant et louant Dieu. Tout cela est hors de sa portée à elle. Elle n'en veut pas. Oh non, monsieur, vraiment pas. Que fait-elle alors? Elle met au monde une paire de chattes illégitimes, comme il les appelle. Oh, visage fardé, portant des shorts, société de Jézabel. Je crois qu'ils les appellent des chattes. Regardez là-bas cette chatte, disent-ils, ou quelque chose comme ça, vous savez. Elle était mariée ou unie à son premier mari, le premier Adam, par Ève, la femme adultère. La première femme d'Adam. Vous dites, adultère, certainement elle a été. Mais oh, elle prétend que cet Adam, ce premier Adam est mort. Oh, dit-elle, certainement, il est mort depuis longtemps, et je suis né de nouveau. Maintenant, je suis certainement marié au second Adam, Christ, la parole. Mais remarquez ce qu'elle aime. Observez son amoureux. Si vous voulez voir de qui elle est amoureuse, la parole dit ceci, « Mais, dit-elle, mon Église dit cela, alors de qui est-elle amoureuse ?» Qui est son mari ? Ses propres fruits prouvent ce qu'elle est. Exactement. Cela montre ce qu'elle est. Remarquez, elle est d'abord née en Adam parce que c'est sa naissance naturelle. Voyez, elle n'a jamais quitté cela. C'est un amoureux de monde. Elle prétend qu'elle est née en Christ la seconde fois. Mais remarquez, son amoureux est quand même Adam, parce qu'elle aime le monde. Autre chose, remarquez quelle sorte d'enfant elle porte. Cela montre qui est leur papa. Ou bien c'était le premier Adam, ou bien c'est le second Adam. Si l'Église met au monde un enfant du second Adam, il agit comme le second Adam, comme au jour de la Pentecôte. Ce sont là les véritables enfants du second Adam. Vous voyez, c'est vrai, de nature ils sont comme lui et elle. Oui, monsieur. Ses filles à elle, visage fardé, cheveux courts, vêtements d'homme, pantalons, la Bible dit qu'elle ne devrait pas le faire. Elle se coupe les cheveux, c'est une honte pour elle. Vous dites, taisez-vous avec ça, c'est ce que dit la parole. Je fais seulement ressortir la nature. C'est ce qu'elle fait. Ses fils, les fils nés d'elle, s'appuient sur la culture, les études, certaines écoles bibliques, un grand collège couvent comme dans une sorte d'incubateur, des chercheurs dénominationnels, des caïnites religieux, aussi légitimes à la parole que Cain était. Aussi légitimes que Cain. Des chercheurs dénominationnels. Vous voyez ce que c'est? Dieu n'a jamais organisé des dénominations. Il a toujours été opposé à cela, et la parole aussi. Mais ils y cramponnent. Alors vous voyez ce qu'ils mettent au monde. Cela montre qu'il est leur papa et leur maman, exactement. Aussi légitime que Cain. C'est le genre d'enfant qu'ils mettent au monde par Ève. Ils s'éloignèrent de la parole, et alors vous voyez ce qu'elle a apporté. C'est exactement ce que l'Église a apporté. La même chose, je peux vous le prouver par la parole. C'est de là que la culture, la civilisation sont venues, à travers Cain, c'est exact. Ils prétendent être fils de Dieu, mais ils sont de descendance dénominationnelle. Ce sont des élèves d'école dénominationnelle, tout le reste, exactement. Rusés, intelligents, oh là là, c'est ainsi qu'était leur père. C'est vrai. Des prédicateurs aussi rusés et scientifiques que le fut Cain. C'est exactement la même chose. Vous dites, frère Branham, est-ce vrai? Prenez Genèse 4.16 et vous le trouverez.
Revenez une minute en arrière à Genèse 4:16 et vous verrez comment cela est arrivé. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'Orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut en faute à Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Et ainsi de suite jusqu'à Tubal. Ils furent des inventeurs d'instruments de musique, etc. La civilisation vint par Caïn. C'est vrai, bâtisseur de villes, fabricant d'instruments, l'homme scientifique vint par Caïn, la semence du serpent. Maintenant, remarquez, le 25e verset, Adam connut encore sa femme, ainsi il l'a connue une première fois, et eut deux enfants. Sondez les Écritures. Elle eut Caïn et Abel, un acte, deux enfants. Il n'y a pas longtemps, on m'a dit que cela ne pouvait pas arriver. Nous avons un cas à Hollywood, ou nous avons un cas en ce moment à Tucson devant le tribunal. Une femme a donné naissance à un enfant de couleur et à un enfant blanc en même temps. On dit que ce n'est pas possible. Pourtant, il peut avoir deux semences fertiles. Cela passe maintenant au tribunal. Je sais ce peut être le cas chez les chiens. Les animaux le peuvent. Et donc, elle est là-bas. L'homme blanc a dit, « J'entretiendrai mon propre enfant, mais pas celui-là. » Et la femme a fait la confession qu'elle avait vécu avec son mari ce matin-là et avec l'homme de couleur l'après-midi du même jour. Le médecin a déclaré, si c'est dans l'espace de 24 heures, cela est possible, s'il y a là une semence fertile. C'est ce qu'elle fit, et c'est exactement ce qui est arrivé ici. Caïn, ce matin-là, Satan, le serpent, et l'après-midi, Adam. Ainsi, elle eut deux enfants. Adam connut encore sa femme pour la seconde fois, et l'enfanta un fils. Souvenez-vous, il n'est dit nulle part dans la Bible que Caïn était le fils d'Adam. Il est dit qu'il était du malin, pas d'Adam, mais du diable. Il connut sa femme une seconde fois, et eut un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils, à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Cela ne vient pas de la généalogie de Caïn, mais de la généalogie de Seth. Ainsi, Caïn est du malin. Voilà le serpent. Maintenant, remarquez, la Bible dit clairement ici que son premier mari doit être mort. Non seulement répudié, mais il doit être mort. Je viens de prêcher sur mariage et divorce. Vous en êtes tous au courant. Maintenant, je ne parle pas uniquement à cette assemblée ici, mais à tout le pays. Très bien. Vous voyez ce qui est arrivé là dans mariage et divorce. L'ouverture des sept sceaux a apporté la vérité là-dessus. Ainsi, pour être marié au second Adam, Christ, la parole, vous devez vous séparer par la mort de votre premier mari dénominationnel. Parce qu'il ne se trouve pas un seul qui puisse prendre toute la parole de Dieu. Montrez-moi donc où il se trouve. Oh, dites-vous, le mien, un autre dira que c'est le sien. Mettez-les ensemble et vous verrez que vous avez tous les deux tort. Dès l'instant où vous devenez dénominationnel. Lisez Apocalypse 17. Ainsi, vous voyez, vous devez être mort à cette chose. Maintenant, je ne parle pas à cette assemblée locale, je parle à tout le pays. Vous devez être mort à votre premier mari. Si vous êtes unis à Christ et encore marié à une dénomination, vous êtes adultère. Vous êtes une Laodicée. Une église dans le pays, nous suivons Jésus-Christ, la parole. Pour être dans l'épouse, vous devez être remarié à la parole de Dieu, qui est Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole fut faite chair et habita parmi nous. Tant que vous êtes attaché aux traditions humaines des dénominations, vous êtes appelé dans la parole de Dieu, adultère. Tant que vous recherchez des credos dénominationnels, que vous appartenez à une église dénominationnelle qui nie la parole, vous êtes adultère. C'est ce que la Bible dit. Jésus a dit, vous ne pouvez servir deux dieux à la fois. Vous servez ou bien Dieu ou bien maman. Maman, c'est le monde. Celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. La semence de Dieu ne peut pas être en lui en même temps que l'amour du monde. Lorsque la semence de Dieu opère à travers vous, c'est-à-dire la parole de Dieu, l'amour du monde ne peut pas s'y trouver en même temps. Maintenant, où sont les cheveux courts, les shorts et les visages fardés? Maintenant, où sont ces choses? Vous ne pouvez être vertueux à l'égard de Christ, la parole de Dieu, et servir en même temps une dénomination venant de l'homme. C'est contraire à la parole. Paul a dit ici, « Oh, Romains 7. Vous ne pouvez pas non plus engendrer des fils de Dieu et de sa parole dans ce groupe dénominationnel illégitime. Vous ne le pouvez pas. Dans votre incubateur, vous ne pouvez pas mettre au monde un fils de Dieu parole. Je parle à l'Église. Bien que vous prétendiez être très religieux, Cain aussi, le fils d'Ève, la prostituée, était très religieux. Il construisit des autels, offrit un sacrifice, paya ses dîmes et fit tout ce qu'un homme religieux aurait fait. Mais il ne garda pas cette parole. Il lui manquait la révélation. Et la révélation est la seule chose, la révélation de la parole. Qu'est-ce qu'une révélation? Jésus a dit, « Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » La foi est une révélation, parce que la foi vous a été révélée. Abel, par la foi, offrit par révélation, par la foi, il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. Cain croyait qu'ils avaient mangé des pommes, en encore cette idée. Mais ce n'était pas le cas, c'était un adultère. La semence du serpent, et là, l'ouverture des sept sceaux l'a déclaré et prouvé. Mon livre là-dessus vient de sortir. Je crois que nous avons un millier d'exemplaires maintenant. Remarquez, c'est scripturaire de la Genèse à l'Apocalypse. Au temps de la fin, les deux âmes produisent leurs semences révélant ce qu'ils sont. Nous y sommes aujourd'hui exactement Laodicée et l'épouse, aussi clair que nous pouvons le voir des Écritures. Cela s'étend sous nos yeux. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez être un chrétien vertueux, croyant à la Bible, et vous associer à une affaire dénominationnelle. Vous ne pouvez simplement pas le faire en même temps. L'un doit être mort pour laisser l'autre vivre. Vous ne pouvez pas non plus porter le Fils parole de Dieu. L'Église ne peut pas non plus enfanter, et ne veut pas un de ses enfants qui crient, parlent en langue, et toutes ces choses. Vous ne pouvez pas faire ça dans une Église dénominationnelle. Ils ne vous voudraient pas. Ils ne les amènent pas comme ça. Ils les prennent, leur serrent la main et disent, « Si vous croyez, vous l'avez. » Dès l'instant, vous mettez votre nom sur le livre, c'est tout ce que vous avez à faire. Voyez, ce sont des enfants illégitimes pour la parole. Ils prétendent pourtant être religieux. Ainsi, l'Église est devenue enceinte de la sagesse et de la connaissance de Satan. Ils envoient leurs gens dans des écoles pour apprendre à dire « Amen » de la bonne manière. Ils apprennent à dire tout cela à être très intellectuel. Qu'est-ce? C'est la fécondation du diable! Avec quoi Satan féconda-t-il Ève? Avec l'incrédulité face à la parole de Dieu, au profit d'intellectuels, de l'intelligence, et cela ruina toute la création. C'est exactement ce qu'il a fait dans la parole aujourd'hui, l'Église. Elle s'est rendue enceinte au contact d'écoles bibliques, de collèges et autres choses semblables, lecture, écriture, arithmétique, mais ils n'en savent pas plus au sujet de Dieu qu'en autant au sujet d'une nuit égyptienne. Ils connaissent bien leur credo, leur livre de prière, etc., mais ne connaissent rien au sujet de Dieu. Autrement, ils le reconnaîtraient lorsque la parole est confirmée. Quand Dieu parla et donna des portions de sa parole à chaque génération, Noé vint et prêcha à cette génération. Maintenant, que serait-il arrivé si Moïse était venu et avait dit « Construisons une arche ». Il aurait été démodé, mais il était un prophète. Il avait la révélation de Dieu et Dieu confirma que c'était la vérité. Il fit sortir les enfants d'Israël et fit apparaître devant eux la colonne de feu qui justifiait le prophète. Elle leur dit exactement ce qu'il allait faire et il le fit. Ils dirent que Dieu ne parle pas, mais que Moïse parle, sinon nous mourrons. Dieu dit, je ne leur parlerai plus comme cela, mais je leur susciterai des prophètes, et ils parleront. Alors Esaïe se tenant l'a dit, une vierge concevra. Un homme comme lui, à une époque où, comment une vierge va-t-elle concevoir? Un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Sur le trône de son père David, il régnera, et son royaume n'aura pas de fin. Comment cela allait-il arriver? Il ne le savait pas. Il exprima simplement ce que Dieu disait. C'est au-delà de toute imagination ou intelligence. C'est au-delà de toute recherche scientifique. C'est la parole de Dieu. Maintenant, nous enseignons à nos étudiants séminaristes toutes sortes de théologies bibliques et des choses comme cela, de la théologie venant de l'homme. Elle a atteint un certain nombre d'églises, telle une Laodicée, comme Dieu l'a prédit. Oh là là, quand je regarde cela, ça me fait frissonner. Enceinte de concepts intellectuels. Vous devez être diplômé d'une école secondaire avant même de pouvoir entrer. Vous devez passer devant un psychiatre avant de pouvoir être ordonné. Pouvez-vous imaginer Pierre, Jacques et Jean aller devant un psychiatre? Souvenez-vous que les 120 là-haut ne savaient même pas signer leur nom. Les voyez-vous debout devant un psychiatre pour voir si leur réflexe était bon, etc.?
Ils avaient un réflexe, mais ce n'était pas un concept intellectuel ou de la recherche scientifique. C'était à travers la puissance de Dieu. Lorsqu'elle les frappait, ils ne savaient rien faire d'autre que ce que le Saint-Esprit disait de faire. Ils ne prêtaient attention à aucun intellectuel ou à ce que l'Église pouvait bien dire, à ce que le prêtre ou celui-ci ou celui-là disait. Ils étaient animés de l'Esprit. Hommes, ne craignons rien. 1 Jean 2,15 dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Alors comment pouvez-vous être fécondé par la parole de Dieu, alors qu'elle condamne le monde, qu'elle condamne Hollywood, qu'elle condamne toute cette mode, qu'elle condamne toutes ces réceptions, ces débauches, et tout ce qu'ils font sous le manteau de la religion. Elle condamne cela. Comment la parole peut-elle féconder une telle personne? Comment une femme aux cheveux coupés, au visage fardé, qui porte des shorts peut-elle... Comment un prédicateur peut-il aller au séminaire, regarder Actes 2,38, voir qu'il n'y a pas une personne dans la Bible, avoir jamais été baptisé dans ses titres, et dire pourtant qu'il est fécondé par la parole de Dieu? Il vous dit un mensonge. Il a vendu son droit d'aînesse. Il a commis adultère contre la chose même qu'il déclare. Il est répudié et divorcé. Dieu aura une église vertueuse, une véritable épouse. La Bible dit, la parole n'est pas en vous. Alors, quel genre d'enfant portez-vous? Des dénominationnels. Il n'y a pas eu de mort pour vous séparer de votre premier amant. Qu'est-ce que les Dupont vont dire si je commence à crier, à parler en langue? Que vont-ils penser si je suis rebaptisé? Quel non-sens! Êtes-vous marié aux Dupont? Êtes-vous marié à l'Église? Ou êtes-vous marié à Christ, la parole? Eh bien, c'est la raison pour laquelle elle porte encore ses enfants à lui. Quel genre d'enfant a-t-elle? Voici quelques-uns des noms qu'il porte aujourd'hui. Cats, Beatles, Monsters, Rickies, Rickettas. Cats, Beatles, ce sont des membres d'église, assurément. Des fils de Cain, lesquels sont les fils de l'animal rusé, aussi doux qu'ils peuvent l'être. Maintenant, examinez votre âme pendant un moment avec vos yeux spirituels. Regardez simplement autour de vous. Je parle à tout le pays maintenant. Regardez juste quelques instants, vous autres du Branham Tabernacle, vous dans les tabernacles de la côte ouest, en Arizona et où que vous soyez. Regardez-vous quelques minutes. Vous dites, ce message que vous prêchez, frère Branham, est faux. Regardez-vous un peu. Laissez le Saint-Esprit sonder votre esprit par la parole. Vous serez alors d'accord avec le message. Laissez Christ, la parole ouinte, sonder votre conscience. Laissez-le pénétrer en vous. Voyez si cela est juste ou pas. Ce n'est qu'une chose ou deux, alors qu'il y en a des centaines. La Bible est-elle d'accord avec une femme qui se coupe les cheveux? La Bible est-elle d'accord avec le baptême aux trois noms, Père, Fils et Saint-Esprit? Non, il n'existe pas de telle chose. La Bible est-elle d'accord avec une femme qui porte des vêtements d'homme? Prenez simplement ces trois choses-là, alors qu'il y en a des centaines d'autres. Examinez-les à la lumière de la parole de Dieu. Vous dites, je suis un membre d'église. Cain était aussi, Ève aussi. La Bible prédit que dans les derniers jours, Laodicée serait pareille. Laissez le Saint-Esprit sonder votre conscience et vous serez d'accord avec Daniel 5,12 lorsque la reine vint devant Belshazzar et dit, elle découvrit que Daniel, un prophète, se trouvait parmi eux et qu'il dissipait les doutes. Laissez le Saint-Esprit, il est le prophète du jour. Laissez-le venir dans votre cœur maintenant et comparez cela avec la parole de Dieu. Alors les doutes au sujet du message se dissiperont tous. Ils dissipent tous les doutes. Vous découvrirez que c'est exactement en accord avec la parole pour ce jour. Vous ne pouvez prêcher aujourd'hui le message de Luther. Il s'y trouve, mais ce sont les pieds. Vous ne pouvez prêcher Wesley. Vous ne pouvez prêcher la Pentecôte. Nous sommes bien au-delà. Ils sont tous devenus dénomination et sont morts. Ils sont la tige. La tige pousse avec l'herbe au premier stade de l'Église. Cela ne ressemble pas au grain primitif qui pénétra dans le sol, le blé. En deuxième lieu apparut le pollen. Cela ne ressemble toujours pas au grain. Ça se rapproche. Il ressemble davantage au vrai grain. Mais les brins d'herbe ne ressemblent sûrement pas au grain qui a pénétré dans le sol. Il est porteur de la vie qui était dans le grain. Mais qu'a-t-il fait? Il est devenu une dénomination comme le reste de la nature. C'est identique et il est mort. Puis la vie a continué à monter dans les pieds. Toute une série de petites boules sont suspendues à lui.
On dirait qu'il y a de petits grains là-dedans. Ça a l'apparence du vrai grain, mais ce n'en est pas. Puis ça passe dans la balle. Et qu'est-ce que cela produit? Une balle. Maintenant, prenez un grain de blé. Lorsque le blé commence à croître, comme Jésus a dit, un grain de blé, prenez ce grain de blé et ouvrez-le. Détachez-le de la tige et regardez. Vous dites, nous avons un grain de blé. Faites attention. C'est bien pareil au grain, mais il n'y a pas le plus petit grain là-dedans. Ce n'est que la balle. Ce sont les pentecôtistes. Une telle ressemblance que Matthieu 24:24 dit, cela séduirait dans les derniers jours les élus eux-mêmes si c'était possible. Mais si vous retirez la balle, une partie après l'autre, vous n'avez pas un seul grain. Le grain est tout au fond, et alors la vie sort de cette dénomination et entre dans le grain. Alors qu'arrive-t-il? Lorsque le grain commence à croître, grossit et prend forme, la dénomination s'en sépare. Pourquoi n'avons-nous pas de dénomination à partir de ceci? Il n'y en aura jamais, c'est le grain. Cela ne peut pas aller plus loin, nous sommes à la fin des temps. Qu'a-t-il à faire maintenant? Reposez dans la présence du soleil afin de mûrir. Exactement, la parole doit mûrir dans votre corps pour produire et vivre ce dont nous parlons. Oui, monsieur, alors vous n'aurez plus de doute si vous laissez le Saint-Esprit vous le révéler. C'est ce que la reine dit au sujet de Daniel. Vous dites peut-être, qu'est-ce que tout cela a à faire avec Thanksgiving? De quoi êtes-vous en train de parler, frère Branham? Voici 9h-15, vous n'avez toujours rien dit au sujet de Thanksgiving? Quel message pour cette circonstance, selon moi! Oui, vraiment! Les pères pèlerins étaient très reconnaissants de leur nouvelle vie récemment découverte, étant séparés de la vieille dénomination anglaise et de ses credos. Ils pouvaient se marier à la nouvelle parole ointe pour leur âge. C'est juste, la nouvelle parole ointe pour leur âge. Comme Abraham, nous pouvons être reconnaissants d'être des pèlerins. Nous nous sommes séparés des choses du monde et de tout ce qui va avec lui. Abraham était un pèlerin. Dieu nous a séparés de toutes les religions mortes. Je parle à tout le pays maintenant, de tous les credos morts. Pour entrer dans quoi? Il nous a séparés et a ouvert pour nous un nouveau pays, un nouveau message pour ce jour. La Pentecôte s'est desséchée et est morte. Comme Luther, Wesley et les autres, ce n'est rien d'autre que des églises liées ensemble. Il y a encore de braves gens là-dedans qui doivent sortir. Qu'a-t-il fait? Il a ouvert les sept sceaux du dernier message. L'avez-vous remarqué? Les sept sceaux, tous les mystères des sept âges de l'Église étaient scellés de sept sceaux. Les réformateurs n'eurent pas le temps de le faire à leur époque. Ils ne vécurent pas assez longtemps. Mais cette révélation bénie des sept sceaux nous est faite en ces derniers jours, à partir d'une prophétie qui a vu son accomplissement en Arizona. Ce jour-là, combien j'ai demandé à Dieu, que veux-tu faire de moi ici dans ce désert? Saviez-vous que Moïse écrivit l'Ancien Testament? Certainement. Les quatre premiers livres font connaître les lois, etc. Genèse, Exode, Lévitique et Deutéronome. Il écrivit l'Ancien Testament. Pour cela, il dut quitter tous ses associés, ses bien-aimés et se rendre dans un désert. Paul écrivit le Nouveau Testament. C'est vrai. Il écrivit les Romains et les autres épîtres en passant par Hébreu et Timothée et ainsi de suite. Et pour cela, il dut se séparer et se rendre en Arabie, dans un désert, pendant 3 ans. Et recevoir la révélation de Dieu. Oh, dites-vous, qu'en est-il de Matthieu, Marc, Luc et Jean? C'étaient des scribes qui rapportaient simplement les actions de Jésus, tandis que Paul se sépara et rassembla la parole, c'est vrai. Ainsi, voyez, il a fallu qu'ils partent dans un désert, loin de leur bien-aimé. Souvenez-vous de monsieur, quelle heure est-il? Combien l'ont entendu qu'ils disent Amen? Est-ce exact? Ainsi, en ces derniers jours, nous avons reçu la révélation du message du Seigneur Dieu qui vient réunir son épouse. Cela n'était promis à aucun autre âge, si ce n'est à celui-ci. Malachie 4, Luc 17, 30, Jean 14, 12, Joël 2, 38, doivent s'accomplir exactement comme les promesses se rapportant à Jean-Baptiste. Celui-ci s'identifia lui-même dans les Écritures. Jésus s'identifia lui-même. Ensuite, que dire-t-il? Qu'une telle personne fut d'ici. Jean n'est qu'un sauvage. L'Église ne fut pas en mesure de recevoir cela. C'était pourtant le modèle. L'Église ne sera pas non plus en mesure de le recevoir aujourd'hui. Mais ce sont les élus que Dieu appelle. Les élus le savent. Il appelle l'épouse vertueuse, la parole. L'Église du dernier jour, la dame élue de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole. Si Jésus est la parole, combien croit cela? Très bien. Alors, l'épouse est toujours une partie de l'époux. Ainsi, l'épouse ne sera pas une dénomination. Elle devra être la parole manifestée pour être l'épouse de Christ. Il a promis de le faire. Il a dit comment il le ferait. Il n'abandonne jamais son modèle. Il l'a toujours fait d'après le modèle. Il l'a fait chaque fois d'après le modèle. Il le fait à nouveau. Dans les derniers jours, il appelle son épouse vertueuse à sortir, la jolie Rebecca attendant son Isaac. Quelle période magnifique! Cela met en lumière les deux livres qui vont vous sembler mystérieux lorsque vous lirez celui qui traite des sept âges de l'Église. Les deux livres, le livre de vie, l'un dit que vous pouvez inscrire votre nom dedans et qu'il ne s'effacera jamais, et l'autre qu'il enlève votre nom du livre de vie. Ceci le met parfaitement en lumière. Je vais peut-être m'arrêter quelques minutes sur quelques notes et prendre cela avant que nous terminions. Pour Dieu, la vie est une chose sacrée. Elle est enregistrée dans un livre. Dieu est l'auteur de la vie. Le croyez-vous? Notre vie naturelle n'est qu'une perversion. On devrait vraiment commencer avec la vie correcte, mais elle est pervertie par la naissance naturelle. Lors de la première vie ou de notre première union, à votre naissance, vous avez été uni à une vie naturelle, un acte naturel, un être humain naturel étant uni, un homme et une femme ont été unis dans un acte sexuel qui a produit la vie à votre naissance, et cela lié au péché et à la mort. Comment pouvez-vous manquer de voir la semence du serpent? Lorsque vous voyez la femme, un sous-produit, il n'y a pas d'autre femelle comme elle, faite dans ce but, qui puisse être séduite. Dieu savait. S'il n'avait pas su la fin dès le commencement, il n'aurait pas été Dieu. S'il n'est pas infini, il ne peut pas être infini sans être omniscient, omniprésent, sachant toutes choses. Il est éternel. Ainsi, il savait toutes choses, et il dut faire cette femme. L'homme n'avait pas de femme. La femme et l'homme étaient une seule et même chose. Il avait en lui l'esprit féminin et masculin. Il dut séparer, prendre un sous-produit, après que toute la création ait été faite. Il n'existe aucune femelle créée par Dieu lors de la création originelle qui puisse faire une chose pareille. Elle fut faite ainsi pour faire cela. Il savait qu'elle le ferait. S'il n'avait pas su, il n'aurait pas été Dieu. Mais voyez, les attributs qui sont en Dieu devaient être manifestés. Il devait être un sauveur. En faisant toutes choses parfaitement, rien n'aurait pu être perdu. Oh, ne soyez pas des enfants, soyez des hommes et des femmes. Nous sommes à la fin de la route. Remarquez, c'était la nature liée à la mort. Votre premier mari, qui avait autorité sur vous, c'était votre nature par naissance naturelle. Naturellement, vous aimez le monde parce que vous vivez dans le monde et en faites partie. Est-ce exact? Vos désirs étaient par nature d'aimer le monde dont vous êtes une partie. Vous êtes une partie de la nature. Le croyez-vous? C'est votre nature. C'est la raison pour laquelle vous devez naître de nouveau. Vous devez vous en séparer. Vous devez mourir à ce premier mari. Vous ne pouvez pas vivre avec. Vous ne pouvez pas simplement dire, eh bien, je divorcerai d'avec lui et j'attendrai simplement qu'il meure. Non, monsieur, pas de lettre de divorce. Il est mort! La nature du monde doit mourir! Toute empreinte de lui doit mourir. Vous devez vous unir à nouveau à une autre nature. Votre nom de votre première nature est né et a été inscrit dans un livre de vie, et tous vos actes y ont aussi été inscrits. Tout ce que vous avez fait avec cette nature a été mis dans un livre appelé livre de vie. Remarquez dans Daniel, lorsqu'il s'avança vers l'ancien des jours dont les cheveux étaient blancs comme de la laine, des myriades de myriades vinrent avec lui pour le servir. L'épouse. Et alors les livres furent ouverts et un autre livre, qui était le livre de vie. Des saints s'y trouvent déjà. L'église, l'épouse. Un autre livre fut ouvert, c'était le livre de vie. Mais lorsque vous étiez séparés de cette union, par une mort spirituelle, vos désirs naturels de vous couper les cheveux, vos désirs naturels de porter des shorts, de vous farder le visage, vos désirs naturels d'être intellectuel, brillant, de savoir quelque chose mieux que l'autre, c'est ce qu'elle voulait, c'est exactement ce qu'elle voulait. Vous dites, hé, gringalet, prédicateur à la noix, lève-toi et dis-moi, moi j'ai ma licence de docteur en philosophie, en chaque fois que vous en ajoutez une, cela fait que vous éloignez davantage de Dieu, c'est juste. C'est vrai. Voyez, c'est ce qu'elle désira. Elle fut enceinte de cela, c'est ce qu'elle exige aujourd'hui, par des écoles bibliques et des intellectuels, et voyez, chacun est en désaccord avec l'autre. Un beau gâchis, exactement ce que la Bible disait. Babylone, l'épouse connaît sa position, elle est très peu nombreuse, il n'y aura pas beaucoup de sauvés, seulement très, très, très peu. Vous dites, eh bien, on a dit des milliers, oui, mais ils viennent aussi des 2000 ans écoulés, de chaque âge. Chaque, l'âge de Luther et son groupe, puis ils moururent et devinrent une dénomination, puis Wesley, puis vinrent les pentecôtistes, etc., et toutes les petites ramifications de baptistes, presbytériens, méthodistes, nazaréens, pèlerins de la sainteté, et ainsi de suite. Voyez, tous ont bifurqué depuis là, comme le fait une feuille. Mais vous vous souvenez, lorsqu'elle est redescendue, c'est alors que le grain commence à mûrir. Tout ce qui était dans cette tige doit mourir. Alléluia! Ne voyez-vous pas, nous en sommes? La vie est à nouveau dans le grain. Qu'est-ce? Exactement comme le grain qui est descendu dans la terre. Le même Jésus sous la forme de l'épouse. Même puissance, même église, même chose, même parole. La même parole suce à travers ceci pour arriver finalement à la tête. Et toute cette vie qui passa par là, ramassa son peuple, et maintenant, elle arrive à la tête pour l'enlèvement. Je parlerai de cela demain soir ou le soir suivant, Dieu voulant. Lorsque vous êtes séparés de votre première union par une mort spirituelle, maintenant vous êtes nés de nouveau, remariés, dans une nouvelle union spirituelle, à, non pas à une vie naturelle touchant aux choses du monde, mais à la vie éternelle. Ce germe qui était en vos commencements vous a trouvé. Votre vieux livre s'en est allé avec votre vieille union. Maintenant, votre nom, dans votre vieux, a été transféré. Maintenant, vous direz, voulez-vous me dire que mon vieux livre, Dieu l'a jeté dans sa mer de l'oubli. Vous êtes parfait devant Dieu. Maintenant, votre nom est dans le nouveau livre, non pas le livre de vie, mais le livre de vie de l'agneau, ce que l'agneau a racheté. Pas le vieux livre de votre union naturelle, mais vous êtes une nouvelle épouse. Alléluia! Votre nouvelle vie est dans le livre de vie de l'agneau, votre attestation de mariage. Alléluia! C'est à cela que votre véritable germe éternel se rattache depuis le commencement. Maintenant, votre nom est dans le nouveau livre, non pas le livre de vie, mais le livre de vie de l'agneau, ce que l'agneau a racheté. Pas le vieux livre de votre union naturelle, mais vous êtes une nouvelle épouse. Alléluia! Votre nouvelle vie est dans le livre de vie de l'agneau, votre attestation de mariage. Alléluia! C'est à cela que votre véritable germe éternel se rattache depuis le commencement. Maintenant, vous n'êtes pas seulement pardonné, mais vous êtes justifié. Oh, gloire! Justifié, Romains 5 en dit, c'est pourquoi étant justifié par la foi. Regardez la signification de ce mot. Il ne veut pas dire pardonner. Le mot veut dire justifier. Il ne veut pas dire que vous êtes pardonné. Par exemple, vous apprenez que je me suis enivré et que j'ai fait de vilaines choses, etc. Alors vous venez me dire, vous découvrez que je ne les ai pas faites. Alors vous venez me dire, frère Bonhomme, je vous pardonne. Me pardonner, je ne l'ai jamais fait. Voyez-vous? Maintenant, si je l'ai fait, je suis coupable. Mais vous pourriez me pardonner, je ne serai plus coupable. Cependant, je ne serai pas justifié, car je l'ai quand même fait. Mais avec le mot justifié, c'est comme si vous ne l'aviez jamais fait. On n'en tient pas compte du tout. Comment cela se peut-il? Dans le livre de Dieu de la mer de l'oubli, votre vieux livre et votre mariage, qui étaient dissous par divorce, sont morts. Elles ne se trouvent même plus dans le souvenir de Dieu. Amen. Vous êtes justifié. C'est pourquoi, étant justifié, vous étiez accusé. Mais c'est comme si vous ne l'aviez jamais fait. La vieille union est dans la mer de l'oubli de Dieu. Premièrement, vous n'avez pas été marié. Lui, l'époux, a porté votre honte, lui-même pour vous, à votre place. Il a pris votre place. Car vous étiez prédestiné à être à lui, à faire partie de son épouse, avant la fondation du monde. La Bible dit, vous êtes la semence prédestinée. Comment êtes-vous venu à faire ceci? Vous y avez été entraîné par votre premier mariage, à cause de votre parente adultère, Ève. Ce n'est pas votre faute. De par votre naissance naturelle, vous êtes venu après Ève, qui commit adultère. C'est la raison pour laquelle vous êtes né adultère. Vous étiez un pécheur pour commencer. C'est vrai, vous avez été séduit, vous n'aviez pas... Non, ce n'est pas votre faute. Vous ne l'avez jamais fait, parce que ce petit germe qui était en vous devait vous représenter avant la fondation du monde. Dieu mit votre nom dans le livre de vie de l'agneau. C'est comme mon histoire du petit aigle, vous l'avez déjà tous entendu. Un vieux fermier voulut une fois faire couver une poule. Il n'avait pas assez d'œufs à mettre sous la poule, alors il trouva un œuf d'aigle et le mit sous elle. Lorsque l'aigle naquit, il avait l'apparence d'un drôle de poulet pour les autres. Le petit aigle suivait la poule qui faisait « cote, cote, cote ». Mais le petit aigle se disait « Je ne sais pas ce que cela veut dire, mais je vais quand même la suivre ». Il alla dans la cour de la ferme et commença à gratter, puis se dirigea sur le tas de fumier. Elle faisait « cote, cote, cote ». « c'est bon, viens vers nous ». Et c'est ce que le petit aigle, il ne pouvait pas manger de cette saleté. Il continuait à aller avec les poulets, parce qu'il ne savait pas. Il ne savait pas que faire.
Alors qu'elle allait plus loin, elle prenait ceci et cela, et le petit aigle devait bien l'avaler. Il ne savait pas comment faire. Mais il avait vu tous les poulets se comporter ainsi. Pourtant, en lui, il y avait quelque chose de différent. Il n'aimait pas ça. Ainsi, un jour, sa mère réalisa qu'il avait pondu deux œufs. Elle partit alors à la recherche de l'autre. Elle vola dans les alentours, cherchant comme le fait le glorieux Saint-Esprit. Un jour, elle survola la cour de la ferme, cette dénomination. Elle regarda en bas, elle vit son bébé. Elle poussa un cri. C'était la voix de quelque chose qui fait écho en lui. Oh, laissez un germe, véritablement prédestiné, prédestiné par Dieu, entendre la parole de Dieu. C'est de la musique pour lui. Il sait que c'est la vérité. Il était fatigué de cette popote dénominationnelle. Joins-toi à nous, viens avec nous, nous avons une manifestation sociale, nous avons ceci, nous avons... Ça, ce n'est pas juste pour le petit être. Elle dit, fils, tu n'appartiens pas à ce groupe. Tu m'appartiens, tu es à moi. Il dit, maman, cela me paraît réel, comment vais-je faire pour sortir d'ici? Sous simplement, je t'attraperai, c'est tout ce que tu as à faire. Si la parole loin de Dieu est confirmée devant tout homme qui est né pour être un fils de Dieu, avec en lui le germe prédestiné pour cette heure, il verra le message de Dieu aussi vrai qu'il y a un Dieu au ciel. Martin Luther le vit pour le sien, Wesley le vit pour le sien, le pentecôtiste le vit pour le sien. Maintenant, qu'en est-il de vous? Ils sont entrés dans les dénominations. Mais voici, la parole condamne cela et vous dit exactement ce que nous devons faire. Nous devons avoir aujourd'hui avec Malachie 4 et toutes ces autres promesses pour l'heure. Que voyez-vous? Que regardez-vous? Amen. Nous y voici, l'aigle véritable est ici. Mes brebis connaissent ma voix et ne suivront pas un étranger. C'est que ça a été mis là par prédestination. Vous avez été prédestiné à être un fils de Dieu. Vous étiez en Dieu avant la fondation du monde. Vous êtes seulement manifesté en ce jour pour son honneur et sa gloire. Comment pouvez-vous le faire sans honorer sa parole? Oui, monsieur, vous êtes une partie de cette parole par prédestination. Parce que regardez, ce Dieu est la parole. Vous le croyez? Alors, s'il a toujours été la parole, au commencement était la parole. Si la parole était Dieu, alors vous étiez en Dieu. La parole, le rôle que vous devez jouer est d'être en Dieu avant la fondation du monde. Il vous voyait, il vous connaissait, il vous prédestinait à cela. Je vous le dis, de même que cet aigle reconnut cette voix, un véritable chrétien né de nouveau reconnaît la voix de Dieu, parlant à travers la parole, lorsque la voix ouinte est confirmée. Regardez, leva les yeux, ne vit plus cette vieille poule qui faisait cote, 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 joins-toi à nous, viens ici, va là, va ici, va là. Il vit un être comme il voulait en être un, qui planait dans les airs, qui criait librement tout là-haut, au-dessus des vautours et des choses de la terre. Alléluia! Il voulait être comme cela, parce que c'était en lui. Et un homme qui est né de Dieu, un fils de Dieu, doit avoir la nature de Dieu. Il doit être comme Dieu. Il honore Dieu. Il est une partie de la parole de Dieu. Et en ces derniers jours, cette épouse prend forme avec exactement la même puissance que la sienne au commencement. S'il traverse les organisations, etc., et on sort pour entrer dans l'épouse, il ne peut être rien d'autre que cela. Ces Juifs de leur temps auraient dû le reconnaître lorsqu'ils virent cela manifesté devant eux, comme l'avait annoncé un prophète. Il dit, sondez les Écritures, car en elles, vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si vous ne pouvez me croire, croyez les œuvres que j'ai faites. Ils dirent, nos pères ont mangé de la manne dans le désert pendant 40 ans. Nous savons où nous en sommes. Il dit, et ils sont tous morts. C'est-à-dire séparés pour l'éternité. Tous moururent. Il y en eut seulement 3, 2 pour 1 million, ou plutôt 2 millions. Ça en fait 1 sur 1 million. Lors d'une insémination, le sperme du mâle et de la femelle, il y a généralement un œuf de fertile. Il y a un œuf, un germe de fertile. Avez-vous déjà vu l'hybridation chez le bétail? Remarquez, il y a 1 million d'œufs. Il y a 1 million de germes. Elles sont lâchées ensemble dans l'utérus au moyen d'un tube. Et c'est là qu'ils se rencontrent. L'un d'eux est un œuf, 1 million d'œufs. 1 million de germes. Il n'y a là qu'un œuf de fertile. Il n'y a qu'un germe de fertile. Ils sont tous vivants. Vous pouvez observer ces petits veaux qui se battent là, si minuscules que vous pourriez les mettre sur une allumette. Demos et les autres sont à l'écoute ce soir et se souvient lorsqu'il m'emmena pour me montrer comment cela fonctionnait avec ses éprouvettes. juste de quoi mettre sur la tête d'une allumette, et il y avait des milliers de petits veaux et de bœufs là-dedans, mais un seul parmi eux peut vivre. Un seul parmi eux. Or, il y en a beaucoup à cet endroit, mais vous pouvez en remarquer un qui va passer par-dessus ce germe et venir ici, tandis qu'un œuf fera de même et bientôt se rencontreront, et les autres meurent. Pourtant, ils sont vivants. Mais ils meurent. Parce qu'il y a quelque chose, quelqu'un a rendu celui-ci fertile et a choisi également celui-là. C'est la prédestination, mon frère. Oui, monsieur. Dieu doit déterminer si ce sera un garçon, une fille, un rouquin, un noir ou autre. C'est déterminé par Dieu. C'est plus un mystère pour moi qu'une naissance virginale. Mais remarquez, les autres meurent. 2 millions de personnes sortirent, chantèrent, crièrent, firent tout le reste, parlèrent dans une autre. Non, ils ne parlèrent pas en langue, mais ils crièrent et donnèrent gloire à Dieu. Ils dansèrent le long de la mer et firent tout comme les autres. Mais il y en eut 2 seulement qui entrèrent dans le pays de la promesse. Caleb et Josué, seulement 2. C'est-à-dire 1 sur 1 million. Il y en a 1 sur 1 million de la naissance naturelle. Chacun d'eux la même bénédiction. Oh, vous, pentecôtistes, j'espère que vous ne vous réveilleriez pas trop tard. 1 sur 1 million. Regardez, il est censé y avoir 500 millions de soi-disant chrétiens dans le monde aujourd'hui. Par conséquent, si Jésus venait, seuls 500 iraient avec lui, si la statistique est juste. Eh bien, il y en a davantage qui disparaissent chaque jour dans le monde sans qu'on n'en sache rien. Je comprends, dirent les scribes, vous savez que le... Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement, demandèrent-ils à Jésus. Il dit, Élie est déjà venu et vous n'avez pas reconnu. Il fit exactement ce que les Écritures avaient dit qu'il ferait. Ainsi le Fils de l'homme doit souffrir. Ils ne le reconnurent pas. Pourtant, ils étaient tous à l'église, tous prétendent être vivants. Cependant, un vrai chrétien né de nouveau, un vrai serviteur de Dieu, s'il entend cette parole de Dieu, il sortira de toute détermination pour venir dans le terrain vraiment fertile de la parole, dans ce champ d'ensemencement. Il le fera, je ne sais pas comment, mais Dieu a prévu que ce sera ainsi. Vous étiez sa semence au commencement par votre premier mariage. Maintenant, vous savez ce qui est vrai. C'est ce que j'ai dit au sujet du petit aigle. Lorsqu'il entendit la voix de l'époux, il alla vers elle. La parole de Dieu, ouinte, est confirmée pour les derniers jours. Noé pour la parole confirmée pour son temps, le croyez-vous? Eh bien, son message ne marchera pas aujourd'hui. Moïse pour la parole confirmée de son âge, le croyez-vous? Ça ne marchera pas maintenant. Jésus était, Jean pour la parole confirmée, le croyez-vous? Cela ne marchait pas du temps de Jésus. Certainement pas. Non, monsieur, la loi et les prophètes furent jusqu'à Jean, depuis lors le royaume des cieux. Les apôtres, ceux qui exposèrent la Bible, voici Luther et la Réforme. Son église ne marche pas aujourd'hui. Celle de Wesley non plus. Celle des pentecôtistes non plus. Ça marchait de leur temps, mais c'est un autre jour. C'est l'ouverture des 7 sceaux. Je sais que cela vous paraît étrange, mais Dieu l'a confirmé si parfaitement qu'il n'y a pas de question à ce sujet. C'est absolument parfait. Je n'apporte pas cela à l'assemblée locale d'ici. Je parle aux gens de tout le pays. Vous voyez? Vous faites ce que vous voulez. Remarquez maintenant la parole « oua » de ce jour, dont vous êtes une partie par prédestination. Immédiatement vous, lorsque vous avez entendu cela, vous avez su rapidement que vous étiez un aigle. Vous avez réalisé que vous n'étiez pas, pour commencer, un poulet dénominationnel. Vous saviez qu'il y avait là quelque chose de faux. Il y a quelque chose de faux, c'est vrai. Car vous savez qu'au commencement, vous avez été pris au piège là-dedans. Lui, l'époux, prit votre honte et l'a mis dans la mer de l'oubli par le lavage de l'eau de la parole et le sang de vie. C'est ce que la Bible dit. Le premier mari auquel vous avez été marié, le monde, l'époux oint qui vous prédestina, vous a lavé par le lavage d'eau par l'Église. Ça ne sonne pas juste, n'est-ce pas? Vous pourriez trouver cela dans l'almanach, mais pas dans la Bible de Dieu. Par le lavage d'eau, par la parole. Et la parole, voyez-vous, vous êtes parfaitement justifié, comme si vous ne l'aviez jamais fait au commencement. Ceci est maintenant mon message à l'Église, alors que nous allons terminer la retransmission dans 1 minute. Vous êtes debout, si vous vous tenez sur la parole de Dieu et avec la parole de Dieu. C'est-à-dire chaque amen, chaque iota, chaque trait de naître. Quelle est votre position? J'essaie de vous dire, dégagez-vous de cette balle et venez ici dans le blé où vous pourrez mûrir sous le soleil. J'entends la venue de la moissonneuse. vous êtes parfaitement justifié, comme si vous ne l'aviez jamais fait en premier lieu. Alléluia, vous parlez d'un Thanksgiving, je me sens vraiment bien, je suis plus reconnaissant de cela que de tout ce que je connais d'autre. Vous êtes l'épouse pure, vertueuse, sans péché du Fils du Dieu vivant. Tout homme et femme qui est né de l'Esprit de Dieu, lavé dans le sang de Jésus-Christ, et qui croit chaque parole de Dieu, est comme s'il n'avait jamais péché en premier lieu. Vous êtes parfait. Le sang de Jésus-Christ, comment pouvez-vous, si un homme, si j'étais censé mourir demain matin, et qu'un homme prenne ma place, je ne pourrais pas mourir pour ce péché. Quelqu'un a pris ma place. Et Jésus, la parole, a pris ma place. Il est devenu, moi, un pécheur, afin que je puisse devenir, lui, la parole. Amen. Laissez-moi lui rester fidèle. Pas à l'église, à la parole. Amen. Oh, cette union spirituelle de Christ dans son église maintenant, lorsque la chair devient parole et que la parole devient chair. Manifestez, confirmez, juste ce que la Bible a dit qu'il arriverait dans ce jour. Cela se produit jour après jour. Oh, cela s'accumule si vite dans ces déserts, et des choses arrivent à tel point que je n'arrive même pas à suivre. Nous sommes proches de la venue de Jésus qui vient s'unir à son Église, que la parole devient la parole. L'appel du Saint-Esprit qui sonde les cœurs. Vous êtes parfait. Vous n'avez jamais péché en premier lieu. Dieu ne sait même pas. C'est dans la mer de l'oubli. Vous ne l'avez jamais fait. Vous avez été accusé de cela par l'accusateur, mais en fait, dès le début, vous étiez prédestiné à être un fils ou une fille de Dieu. Vous vous tenez là, lavé, et votre vieille lettre de divorce est rejetée, est morte, absolument sans existence, même dans la pensée de Dieu. Vous êtes l'épouse vertueuse de Christ, lavée dans le sang de Christ. Le Fils de Dieu précieux, vertueux, sans péché, avec une épouse parole, pure, sans mélange, qu'il a lavée par l'eau de son propre sang, qui est devenue chair, s'est manifestée, afin qu'il puisse vous prendre, vous qui fûtes prédestinés dans le sein du Père, avant le commencement, de même que lui. Il était ce grand attribut de Dieu appelé amour. Quoi que vous soyez, vous êtes serviteur de Dieu. Quoi que Dieu veut que vous fassiez, où que soit votre place, Dieu a placé dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs. Il agit ainsi par la vertu de sa propre prédestination. Et vous étiez cela au début. Votre premier mariage était annulé. Vous n'avez jamais fait en premier lieu. Parce qu'une seule chose pouvait le faire, et c'est que Dieu lui-même prenne votre place dans la forme du Fils de Dieu. Jésus-Christ, et vous lave par l'eau. Le lavage d'eau par la parole.
Amen.
La parole, pas la dénomination. La parole vous a lavé.
Amen.
Mais si vous ne voulez pas vous tenir dans l'eau de la parole, comment allez-vous être lavé? Vous êtes encore aussi taché qu'Ève. Oh, agneau bien-aimé, agonisant, ton sang précieux ne perdra jamais de sa puissance, jusqu'à ce que toute l'Église rachetée de Dieu soit sauvée pour ne plus jamais pécher. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est l'incrédulité. Incrédulité envers quoi? La parole. L'incrédulité envers Dieu qui est la parole. Pure, sans mélange. Oh, alléluia. Partir bientôt pour le ciel. Amen. Êtes-vous prêt? Être prêt. Pensez-y. Vos vêtements lavés par l'eau de la parole ensanglantée. La parole devint sang. La parole a saigné pour vous et vous êtes lavé dans la parole sanglante. La parole ensanglantée, la vie de Dieu dans la parole et la parole a saigné pour vous afin que vous puissiez être lavé de l'impureté de ces prostituées et rendu propre et sanctifié par le lavage de l'eau de la parole qui fait que votre esprit et votre cœur se sont appuyés sur Dieu et sur sa parole. Maintenant, comment savez-vous que c'est vrai? Lorsque Dieu descend, la confirme, elle approuve. Vous dites, eh bien, je ne crois pas de cette manière. Ils n'ont pas cru de la manière de Jésus, mais Dieu l'a prouvé. Ils ne l'ont pas cru de la manière de Noé. Ils n'ont pas cru de la manière de Moïse. Ils étaient prêts pour cela, à prendre la parole de Balaam. Nous sommes tous pareils, alors associons-nous. Séparez-vous, dit la Bible, de l'incrédulité. Alléluia. Maintenant, remarquez, vous n'êtes pas seulement cela, mais vous allez en mariage dans le ciel, et vous portez la bague de mariage de la grâce prédestinée et imméritée. une bague de mariage de grâce, imméritée de votre part. Dieu l'a fait lui-même. Il vous connaissait avant la fondation du monde, alors c'est là qu'il vous a passé la bague de mariage. Inscrivez votre nom dans le livre. Oh, quel thanksgiving! Alléluia! Gloire à notre Dieu!
Amen.
Maintenant, pour terminer, j'aimerais dire ceci. Nous savons tous que l'Église moderne pentecôtiste, dans son état actuel, toutes les dénominations ensemble, je les mets toutes dans un même paquet parce qu'elles y sont, vous souvenez, il va commencer par l'hyangerbe livrée et par la brûler. Il prend toutes les tiges de blé et les brûle pour commencer, puis il vient prendre son blé et l'emmène à la maison. Elles se réunissent toutes dans une gerbe de méthodistes, baptistes, pentecôtistes, et tous vont dans le conseil œcuménique. C'est vrai, ils sont tous brûlés, vous voyez. Nous savons tous que l'Église moderne, dans sa condition et dans son état actuel, n'est pas en mesure de terminer la grande mission que Dieu a donnée à l'Église pour ce jour. Combien de pentecôtistes peuvent dire « Amen » à cela? C'est vrai. Nous sommes unitaires, binitaires, trinitaires, ceci ou cela, disputent, luttent, l'un ceci, l'autre cela, et chacun d'eux a peur de considérer la parole en face et de subir le test. Ils savent, vous leur parlez de cela, ils disent, je n'y peux rien, je ne peux pas croire cela, ça m'est égal ce qu'il fait, voyez-vous. Cela montre quelle maman et quel papa vous avez. Vous pouvez être un pasteur d'État ou autre chose, vous pouvez être ceci ou cela, vous feriez mieux d'être un fils de Dieu. Maintenant, nous savons que l'Église ne pourrait, l'Église pentecôtiste, en aucun cas, apporter le message des derniers jours dans son état actuel. Le pourrait-elle? Voyons, ils ne peuvent même pas se mettre d'accord sur un ou deux mots de la Bible. Comment allez-vous faire cela? Ils ne le peuvent pas. Ainsi, voyez-vous, la dénomination est hors de question. C'est vrai. Cela va être un peuple élu, élu pour cela. Maintenant, notez, ainsi chacun de nous sait que tous les dénominationalistes, pentecôtistes, etc. sont morts, c'est-à-dire pour les chrétiens du message né de nouveau. Votre premier mari est mort. Vous savez qu'il est mort. Dieu l'a laissé mourir. C'est fini. Toutes les méthodes scientifiques, intellectuelles, cultivées des soi-disant écoles bibliques et autres ont péri. Qu'est-ce que cela produit? La séparation, unitaire ici, trinitaire là, binitaire ici et là-bas. Un tel gâchis, elle s'appelle pentecôtiste. Je suis allé vers un jeune homme, il est à l'écoute maintenant, et une jeune femme. Elle appartenait à une certaine église, elle disait qu'ils étaient séparés. Je dis, qu'y a-t-il? Eh bien, dit-elle, nous sommes de foi différente. Je dis, oh, désolé, êtes-vous catholique? Elle dit, non. Elle me dit l'église dénominationnelle à laquelle elle appartenait, une église pentecôtiste. Je dis, qu'êtes-vous? Il était aussi pentecôtiste, mais d'une autre dénomination. Oh, savez-vous que l'Église catholique romaine a commencé sous une forme pentecôtiste? Combien ça que c'est vrai? Ça lui a pris 2000 ans pour arriver où elle en est maintenant. Si bien qu'ils ne prennent plus rien des Écritures, rien, eh bien les pentecôtistes dans 20 ans seront encore pires que ceux qu'ils sont maintenant si cela continue dans la ligne actuelle. C'est sûr, vous voyez, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Regardez qui sont le papa et la maman. Ils laissent leurs femmes se couper les cheveux, ils peuvent presque faire tout ce qu'ils veulent du moment qu'ils appartiennent à l'Église. C'est tout ce qu'il faut. Oh, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas étonnant que la condamnation de Dieu soit à son comble. Dieu le place juste devant vos yeux, mais vous fermez les yeux et ne le regardez pas. Vous faites taire vos entrailles de compassion lorsque vous voyez l'authentique parole de Dieu dans ses 7 sceaux confirmés et prouvés, de même qu'attestés dans les cieux, dans le pays entier et partout ailleurs, par les grands signes et les miracles qu'il a promis de faire. Vous vous taisez et dites, je ne sais pas, je n'y puis rien, je... Voyez-vous, oh là là, mort et ne le savent pas. Péché et offense, vous êtes mort. Oh là là, nous savons tous que dans cet état l'Église ne pourrait finir ce dernier jour. Comment pourrait-elle introduire Malachie 4? Comment pourrait-elle le faire? Ils ne croient même pas une chose pareille. Comment pourrait-elle croire et introduire Luc 17:30? Comment pourrait-elle introduire tous ces autres passages des Écritures qui sont promis pour ces derniers jours? Elle ne pourrait le faire parce qu'elle nie cela. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Regardez l'état dans lequel Sodome se trouvait en ce temps-là. Regardez l'état de l'Église aujourd'hui. Voyez ce qui arriva à Abraham, l'élu. Voyez ce qui arriva à Lot et à ceux de Sodome. Regardez Billy Graham, Oral Roberts et les autres parmi ces dénominations. Regardez l'Église élue d'Abraham tirée dehors. Voyez le signe que fit Jésus lui-même, le Dieu incarné se tenant là dans une chair humaine. Vous dites, c'était un ange. La Bible dit que c'était Dieu, le Seigneur Dieu, Elohim, dans une chair humaine, montrant qu'ainsi, dans les derniers jours, il oindrait son Église, et que Dieu se manifestera à nouveau dans une chair humaine. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
Amen.
Même chose, il le voit parfaitement dans les Écritures. Lisez, sondez les Écritures, car en elles vous croyez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de ceci. Ainsi nous savons qu'ils sont morts, Dieu l'a laissé mourir dans ses programmes égoïstes, scientifiques et éducatifs. Tous les bons cultistes avaient l'habitude de, si vous aviez parlé d'envoyer un jeune à l'école biblique, du temps où le vieux frère Ruth et les autres étaient ici, vous auriez fait filer tout de suite de l'église. Mais oh, maintenant c'est la grande affaire, mon fils est dans une école biblique, il est en train de creuser sa tombe. Ainsi croyez-vous qu'il pourrait l'accepter aujourd'hui? Croyez-vous que j'essaie de soutenir l'ignorance? Non, je vous dis qu'il y a une différence avec l'âge intellectuel dans lequel nous vivons, où l'Église est devenue enceinte par la science, et toutes ses soi-disant représentations et autres. Vous n'imaginez pas Dieu, car ces prêtres ont imaginé Dieu si parfaitement qu'ils savaient comment le Messie allait venir, mais il va si différemment de ce qu'ils avaient imaginé, ce n'était pas scientifique. Comment cet homme, un enfant illégitime, pourrait-il? Où est-il allé à l'école? Où a-t-il reçu son éducation? Où a-t-il reçu cet enseignement? Comment tu veux essayer de nous enseigner? Tu es né de la fornication. Oh, pour l'amour de Dieu! Voyez-vous la même chose se répéter? La voyez-vous se répéter? Tous dans leur science religieuse, conformément à ce que leur école biblique a dit. C'est ainsi qu'ils le veulent, c'est la manière dont cela doit être, ou cela n'est pas. Dieu se moque de chaque fois, ça vient toujours différemment. Ce fut le cas du temps de Noé, du temps de Moïse, du temps de Christ, du temps de Jean, du temps des disciples, du temps de Wesley, du temps de Luther, du temps des pentecôtistes, et ce fut à nouveau le cas. Le modèle ne change pas, cela vient toujours de la même façon. Ce fut seulement des réformateurs à travers les six âges, jusqu'au septième, mais Apocalypse dit... Dit qu'à cette heure-ci, ça changerait, et ça a changé.
Amen.
Maintenant, nous allons terminer en disant ceci. Finir la grande mission. Comment pourrait-il le faire? Nous savons qu'ils sont morts. Dieu l'a laissé mourir de son âge scientifique, de manière à faire quoi? Révéler le mystère des sept sceaux à l'épouse non dénominationnelle. Comment une dénomination peut-elle accepter ces sept sceaux, alors que c'est absolument contraire, la semence du serpent et toutes ces autres choses, tous les sept mystères sont contraires à ce qui leur a été enseigné, parce qu'ils ont pris la vieille doctrine de l'école biblique. Et les sept sceaux de Dieu, lorsqu'ils furent ouverts sur la montagne, que Dieu me fasse mourir à l'instant même à cette chair, si ce n'est pas la vérité. Je vous l'avais prédit 1 an 6 mois avant que cela n'arrive, lorsqu'il me dit d'aller en Arizona et ce qui arriverait là-bas dans le désert. Il y a des hommes assis ici ce soir qui étaient présents là-bas lorsque les sept anges descendirent, et même les journaux Life Magazine l'ont relaté. Ce fut là-bas, à l'observatoire, etc. Et maintenant, ils ne savent même pas ce que c'est. Et tout ce qu'il a dit, même sur la prochaine destruction de la Californie, toutes les autres choses, et comment j'aurais dit le nombre de jours que cela durerait, comment ce grand tremblement de terre se produirait en Alaska, que cela serait le commencement du signe du temps, et ce qui aurait lieu. Et c'est arrivé, exactement mort pour moi, tel que cela avait été prédit.
Amen.
Cela n'a pas manqué une seule fois. Vous n'avez jamais pu se tromper. Cela ne peut pas. Parce que c'est la parole de Dieu. Et les cieux de la terre passeront, mais elle ne peut faillir.
Amen.
Dieu devait ouvrir ses sept sceaux. Pas dans une dénomination. J'y ai toujours été opposé. Mais hors de la dénomination, afin qu'il puisse prendre une épouse, pas une épouse dénominationnelle, il ne pouvait pas le faire. C'est contre sa propre parole. Il révéla ces sept mystères qui sont là, et cela dévoila des choses qui avaient été cachées depuis la fondation du monde, et qui devaient être révélées le dernier jour au Fils de Dieu. Il a maintenant apporté cela devant les gens, afin qu'ils puissent le voir. Vous y êtes maintenant, à cette épouse non dénominationnelle. Oh là là, voilà vos deux livres. L'un est le livre de vie de l'agneau. Dans celui-là, votre nom est prédestiné. Il ne peut s'effacer. Vous ne pouvez plus du tout l'en retirer parce qu'il a été prédestiné à y être. Mais dans le livre de vie normal, vous pouvez le retirer à tout moment. Si vous ne vous repentez pas, il en est de toute façon retranché parce que vous allez passer en jugement. L'épouse ne passe pas en jugement, elle part dans l'enlèvement. Je vais dire ceci pour terminer, il se fait tard, il est presque 9h30, nous serons dehors vers 9h30, Dieu voulant. Soyez vraiment respectueux maintenant, écoutez, Une fois, je dis ceci maintenant, ceci va à travers le pays, maintenant à New York, il est 11h25, au nord, à Philadelphie, dans cette région, à différents endroits, des saints bien-aimés sont à l'écoute dans des églises. Au sud, à la frontière du Mexique, près du Canada, au nord, à travers le pays, presque tous les 300 kilomètres, à l'intérieur du continent nord-américain, il y a des gens à l'écoute maintenant. Des centaines de milliers à l'écoute. C'est mon message pour vous, l'Église. Vous qui êtes une union spirituelle par la parole, qui êtes mort à ces vieux maris. Vous êtes né de nouveau. N'essayez pas de le déterrer. Il est mort. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, ce petit germe qui est prédestiné en vous, c'est la parole. Ajoutez la parole, à la parole, à la parole, à la parole, jusqu'à ce que cela devienne la stature parfaite de Christ. C'est vrai, de telle manière qu'il puisse venir prendre son épouse. Maintenant, nous sommes juste prêts pour une chose, c'est la venue du Seigneur. Voilà votre nom dans le livre de vie. Le livre de vie, c'est la parole de Dieu, parce que la parole est Dieu et que Dieu est la seule chose qui soit la vie. Ainsi, votre nom fut représenté dans la Bible avant que la Bible devienne parole. Et si vous êtes ici pour faire cela, cela ne va-t-il pas confirmer cette parole? L'Église ne va-t-elle pas se manifester? Malachie 4 et toutes ces autres choses ne vont-elles pas se justifier elles-mêmes parfaitement, parfaitement, et montrer que c'est cela? Lorsqu'il va, Jésus dit, « Si je ne fais pas les œuvres qui étaient promises que je ferai, ne me croyez pas. » À quel groupe s'est-il joint? Il dit, vous avez tous pour faire le diable et vous faites les œuvres. Vous voyez, nous sommes au dernier jour, Église. C'est mon message de Thanksgiving pour vous. Maintenant, avant de terminer, une fois j'étais au Glacier National Park. Nous avions entendu dire toute la journée qu'un glacier de feu allait tomber le soir. Ainsi les gens s'affairèrent tout le jour à préparer cette chose, parce qu'ils allaient déverser ce feu ce soir-là. Ils mettent un liquide, le feu tombe comme un grand glacier d'eau. Cela ressemblait presque à un arc-en-ciel en sortant de ce feu qui se déversait de ce glacier. Ma femme, les enfants et moi, nous marchâmes à travers le parc toute la journée. Nous voulions rester pour voir le spectacle que produisait ce feu. On nous avait promis que nous le verrions et que nous y assisterions de nouveau. Ils dirent qu'ils l'avaient pendant l'été, et ainsi de suite. Je dis, alors, allons-nous pouvoir le voir? Ils répondirent, nous vous le promettons pour ce soir. On nous le promet. Ils sont maintenant là-haut pour le préparer. Après que tout eût été préparé pour l'événement, c'est ce qui se passe en ce moment même. Tout est en train d'être préparé pour l'événement. Une église est tirée dehors pour l'amour de son nom. Il prend son épouse hors du monde de ses dénominations, de la corruption et des choses du monde. L'événement fut préparé. Tout le monde était debout dehors et on nous dit, « Maintenant, observez bien, juste au sommet de la montagne, là-bas. C'est de cette manière que cela est toujours arrivé. C'est de cette manière que cela doit arriver cette fois-ci. C'est de cette manière que cela arrive toujours. Pas à travers une dénomination. Dieu n'a jamais utilisé une dénomination. Jamais !» Le réformateur arrive, il reçoit la parole du Seigneur, et à sa mort, ils construisent une dénomination là-dessus. C'est ce que les pentecôtistes et tous les autres ont fait. Quand de nouveaux événements et tout, c'est de cette manière que cela se produit. Un nouveau mot ajouté, puis ils construisent une église là-dessus, ils font une dénomination, ils se séparent. Cela devait arriver de cette manière. Vous ne pouvez pas battre la nature. La nature suit toujours la même routine. Tige, feuilles, aigrettes, etc. Balles, puis le blé lui-même. Maintenant, remarquez, tout était prêt, tout avait été préparé, tout avait été allumé et préparé, tout le monde était dehors, j'avais la tête levée, j'avais mis mon bras autour de ma femme, nous regardions, les enfants étaient là, tous levaient les yeux comme cela, oh, c'était quelque chose, parce que nous l'attendions, on nous l'avait promis, amen, la parole promet ceci, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. La première et la dernière pluie tomberont ensemble dans les derniers jours. Toutes ces promesses ont été données à travers les Écritures. Nous regardons en haut, surveillons cette heure, la véritable épouse disséminée dans le pays. Nous regardons en haut. Église, il va venir un de ces jours. Aussi vrai qu'il est venu la première fois, il va revenir. Préparez tout, séparez-vous de la balle, tenez-vous au soleil. Continuez à regarder en haut, soyez dans l'expectative. Tout à coup,
Nous entendîmes quelque chose venir du sommet de la colline. Une voix résonna dans le haut-parleur disant, « Tout est prêt !»
Amen.
Alors cet homme qui était debout à côté de moi dit, « Que le feu tombe !» Le voici qui se met à dévaler cette montagne. Un glacier de feu et de flammes. Un vrai spectacle. Frères, préparons tout. Car un de ces jours, le feu va tomber. Nous allons monter. Maintenant, préparons-nous pour le moment où le feu tombera. Nous sommes dans les derniers jours. Nous le savons tous et nous sommes prêts pour la venue du Seigneur. La chose à faire, c'est de vous séparer de tout péché. Séparez-vous de tout ce qui appartient au monde. N'aimez pas le monde ou les choses du monde. Qu'aucun homme ne vous trompe par son credo. Restez ferme de la promesse de Dieu, la parole de Dieu. Et si cette parole est la parole pour ce jour, Dieu la confirmera. S'il ne le fait pas, ce n'est pas la parole pour ce jour. La parole qui tombe le jour de la Pentecôte ne marchera pas en ce jour-ci. Non, monsieur, c'était pour la Pentecôte. Celle-ci est pour l'épouse, le départ de l'épouse pour la maison. Nous avons reçu quelque chose de différent. Les pentecôtistes ont à nouveau représenté cela. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Pas plus que la parole de Noé n'aurait opéré du temps de Moïse, pas plus que la loi de Moïse n'aurait opéré du temps de Paul ici. Il essaie de leur dire, vous êtes morts à cela, et vous ne pouvez avoir cela. Église, vous à qui je parle ce soir à travers le pays, si vous vous séparez des dénominations et de toute la saleté des choses du monde, et de toutes ces choses qui vous gardent dans des credos humains, des ordonnances et des choses semblables, si vous vous en séparez, alors levez les yeux. Préparez-vous. Le feu va tomber un de ces jours. Dieu va le faire venir et ce sera quelque chose à voir. Serez-vous prêts lorsqu'il viendra? Serez-vous prêts pour monter avec lui lorsqu'il viendra? L'enlèvement secret de l'épouse surnaturelle. Elle passera du mortel à l'immortalité. Elle sera changée en un instant, en un clin d'œil. Nous les vivants qui demeurons, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. L'autre jour, le jour de l'armistice, j'étais à Tucson. Mon petit garçon voulait voir le défilé. J'étais en train d'étudier et je n'avais pas le temps. J'avais de nombreuses visites de malades à faire, ainsi que différentes choses. Il me dit, « Papa, on ne peut pas me prendre, emmène-moi. » Je dis, « Très bien. Frère Simpson, je crois qu'il est ici et son petit garçon voulait y aller. » Alors je l'embarquais dans la voiture et nous partîmes rapidement. Je me suis mis à un coin de rue pour regarder. Au bout d'un moment, j'entendis au lointain un bruit sourd qui se rapprochait. Boum, boum, boum. Une batterie de tambour. J'étais là et je pensais, eh bien, ces petits garçons qui lisent tous ces livres sur l'armée vont sûrement aimer ça. Je vis d'abord venir les vieux tanks de la Première Guerre mondiale. C'était de tout petits engins. Ensuite vint le gros, nouveau gros tank de la Deuxième Guerre mondiale, le gros tank Sherman avec son canon. Et ainsi de suite, et au bout d'un moment, vinrent les Gold Star Mothers, puis 12 vétérans de la Première Guerre mondiale, qui étaient les seuls encore en vie dans tout l'État d'Arizona. 12 vétérans. Puis vint un char pour le soldat inconnu, avec la petite croix blanche, un marin, un marine, et un soldat montaient la garde. Il y avait une petite séparation sur le char. De l'autre côté, il y avait une vieille mère aux cheveux blancs, assise avec une étoile d'or, épinglée à son corsage. Une mignonne petite épouse en pleurs, son mari était mort. Un petit garçon à haillons qui détournait la tête, son papa était mort. Et l'on va encore et encore, jusqu'à l'armée moderne. Je me tenais là, quel spectacle, mais combien triste. Je pensais, oh Dieu, un de ces jours, je vais voir autre chose. Alors viendra un jour de résurrection, où les premiers seront les derniers, et où les derniers seront les premiers. Les vieux prophètes apparaîtront les premiers. Elles verront cette procession monter dans les airs, et nous les vivants, qui demeurons, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car la trompette de Dieu retentira, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous rejoindrons leur rang pour rentrer. Alléluia! Tous ceux qui, à travers l'âge de Luther, Wesley, Méthodiste, Presbytérien, jusqu'au dernier âge, reçoivent la parole de leur âge. Dieu vous bénisse, préparez tout, et le feu tombera. Inclinons nos têtes un instant. Je me demande ce soir, alors que je vous ai gardé ici jusqu'à 9h30, s'il y en a un dans cette assemblée visible, s'il y en a une douzaine, combien peuvent dire ici, « Frère Branham, j'ai honte de moi, de la manière dont j'ai vécu. J'ai beaucoup soutenu des dénominations d'hommes. Je sais que je ne suis pas au point avec la parole de Dieu. Je veux seulement que vous demandez de prier pour moi, Frère Branham. » Levez la main, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Regardez un peu, jusqu'aux galeries et autour, Dieu vous bénisse. Je sais, n'ayez pas honte, puis à travers le pays, de New York à la Californie, du Canada au Mexique, vous qui êtes réunis dans ces églises, où de petits groupes fidèles croient ce message de tout leur cœur. Ils sont sortis des grandes tribulations, sortis de ces dénominations. Ils sont des germes de vie. Vous sentez-vous pressé ce soir, comme le petit aigle, d'entendre quelque chose qui soit un peu différent de ce que vous avez entendu, mais pourtant dans votre cœur, vous savez que c'est la vérité. Vous là, à l'intérieur, il y a là-bas quelque part un pasteur. Vous avez levé la main, je vais prier pour vous. Ces choses n'ont pas été faites dans un coin, mes amis. Souvenez-vous, étroite est la porte et resserrez le chemin, et il y en a peu qui les trouvent. N'allez pas avec cette foule, amis, cet âge de l'église de Laodicée. Elle peut sauter et danser sous l'effet de la musique. Tiède. Il n'a pas été dit qu'il était glacé. Il était dit qu'il était tiède. C'est le pentecôtisme. Et elle ne sait pas qu'elle est malheureuse, misérable et aveugle. Aveugle à quoi? La parole. À la manifestation de la parole. Parce qu'elle n'est jamais venue à travers l'organisation. Ils ne peuvent la recevoir. Et vous, pasteur qui êtes à Tucson ce soir, je ne vous en tiens pas pour responsable. Dieu le fait. J'ai été là-bas 3 ans. Je vous ai dit que je n'ouvrirais pas d'église. Je ne l'ai pas fait. Frère Perry Green en a ouvert une. J'ai été là-bas 3 ans. Et vous ne m'avez pas invité une seule fois à votre chaire. Je suis resté à Tucson pendant 3 ans. Dieu va me retirer du désert un de ces jours. Ce message doit vivre. J'ai fait de mon mieux pour vous, pour que vous compreniez. Je connais la raison pour laquelle vous l'avez fait. Vous savez pourquoi? Votre dénomination vous mettra à la porte. Et beaucoup parmi vous à qui j'ai parlé, là-bas, au restaurant Fur, vous savez que c'est la vérité. Honte à vous. Sortez de là, frère. Si un tant soit peu de vie en vous, vous serez comme ce petit aigle dont je viens de parler. Vous entendrez la parole de Dieu.
Amen.
Souvenez-vous, vous allez entendre ceci pour la dernière fois de ces jours. Nous sommes vraiment proches maintenant. Ne voulez-vous pas venir ce soir? Dieu bien-aimé, nous sommes rassemblés solennellement maintenant. C'est vraiment un jour de Thanksgiving. Seigneur, je te suis reconnaissant, Seigneur, de vivre en ce jour. C'est le plus grand jour. Paul, l'apôtre, désirait ardemment voir ce jour. Les grands hommes du temps passé désiraient ardemment le voir. Les prophètes désiraient ardemment le voir. Ils attendaient ce jour. Abraham attendait ce jour, car il cherchait une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. Elle se trouve juste au-dessus de nous ce soir. Jean vit l'Esprit de Dieu descendre du ciel. Il rendit témoignage et sut que c'était le Fils de Dieu. Et pensez maintenant, il est en train de choisir son épouse.
Amen.
Dieu bien-aimé, partout dans le pays, parle à leur cœur. Tu es le seul qui puisse changer leur cœur. Si cette semence n'a pas été placée là dès le début, ils ne la verront jamais, Seigneur. Les aveugles conduiront les aveugles et ils tomberont sans aucun doute dans la fosse, parce que ta parole le dit. Maintenant, Père, puissions-nous voir à travers le pays, à travers le monde, en Afrique, des douzaines et des douzaines en Afrique du Sud, Mozambique, à travers tout le pays, de petites assemblées, prennent ces bandes magnétiques ainsi, cette bande magnétique ira dans une vingtaine de pays différents. Ils commencent à comprendre et à s'en séparer, des centaines et des centaines. Il n'y aura pas besoin de beaucoup, Seigneur. Et lorsque le dernier membre sera reçu dans le corps, Christ viendra.
Amen.
Seigneur Dieu, ce soir, je demande à l'épouse, à ceux qui, d'après moi, se sont séparés et qui attendent, puissent-ils se séparer de tout ce qui est du monde. Ils doivent se tenir dans la présence de la lumière chaude du Fils de Dieu, baignant dans sa parole et son amour. Accorde-le, Dieu bien-aimé. Puissent les gens ici visibles qui ont levé la main ce soir, des douzaines dans tout ce grand tabernacle. Je prie Dieu qu'une nouvelle vie vienne en eux. Je fais cette prière pour tout le pays, et même le monde entier où la bande magnétique sera entendue, afin qu'eux aussi reçoivent ce message de Thanksgiving, et sachant, par les allusions qui ont été faites, ce qu'ils doivent faire. Je te prie pour cela, Père, accorde-le. Bénis-les, ils sont à toi. Je sais que c'est maintenant l'habitude, Père, que nous demandions aux gens de venir à l'autel. Et je te prie, Dieu bien-aimé, afin que dans chaque mission, partout et dans le monde entier, ils viennent à l'autel. Les noirs, les blancs, les jaunes, les mulâtres, où qu'ils se trouvent, les riches, les pauvres, les indifférents, les mendiants, quoi qu'ils soient, ceux qui appartiennent à une dénomination, ceux qui suivent leur propre conception et sont centrés sur eux-mêmes. Ô Dieu, nus, misérables, malheureux, aveugles, elles ne le savent même pas. Tu as dit qu'il en serait ainsi. Elle en est ainsi. Ainsi, je te prie, Père, d'appeler chaque semence ce soir, et que partout dans le monde où ceci tombera, cela puisse saisir ce petit aigle qui connaît la voix de son Seigneur.
accorde-le, Seigneur. Je te les confie au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Maintenant, tandis que vous avez la tête baissée, ici dans l'auditoire visible, il y en aurait-il qui n'ont pas été sauvés, qui n'ont pas donné leur cœur à Dieu? Ne pensez-vous pas que vous devriez être reconnaissant de ce que Jésus a fait pour vous? Le fait de penser que vous êtes un pécheur, que vous êtes étranger à Dieu et que quelque chose pourtant frappe à votre cœur. Comment savez-vous que vous n'êtes pas l'un de ces petits aigles? Vous êtes misérable et vous serez misérable jusqu'à ce que vous vous abandonniez à lui. Pourquoi ne pas faire de ce Thanksgiving l'un des plus grands que vous ayez jamais eu, en recevant Jésus-Christ comme votre sauveur? Voulez-vous venir ici et vous tenir près de l'autel? Je prierai avec vous. Si vous venez, n'importe quel pécheur, homme ou femme, garçon ou fille, membre d'église ou pas membre d'église, le fait d'être un membre d'église ne fait pas de vous un chrétien. L'autel est là. Voulez-vous venir? N'importe quel pécheur qui désirerait venir et recevoir le Seigneur Jésus-Christ, qui aimerait vraiment quitter, certains parmi vous, dénominationalistes, qui aimeriez cesser de vous nourrir de ces aliments de poulet, cesser de dire que vous appartenez à ceci et c'est en ordre. Voulez-vous vraiment savoir ce que le véritable baptême du Saint-Esprit? Venez voir. L'autel est là. Nous sommes prêts. Quittez simplement votre siège. Avancez-vous et venez vous agenouiller ici à l'autel, comme ce frère qui vient d'arriver. Thanksgiving, ô Dieu, je te suis si reconnaissant de ce que toute ma vie j'ai su qu'il y avait quelque chose, Seigneur. Je n'ai jamais été satisfait, j'essayais. Je pensais que l'année suivante je le ferais, que la semaine suivante je le ferais, la prochaine fois que j'entendrai un appel à l'autel, je le ferai. Je le ferai un jour, je remettais toujours. Mais Seigneur, je sais que quelque chose ne va pas chez moi. J'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose de différent. Et maintenant, Seigneur, ce soir, je suis reconnaissant pour les mesures qui ont été prises par le Fils de Dieu, afin que mes péchés, en fait mon incrédulité, soient lavés en moi. Je viens ce soir, je m'agenouille pour accepter la grande bénédiction de Thanksgiving que Jésus-Christ a acquise pour moi lorsqu'il mourut pour moi au calvaire.
Alléluia.
Voulez-vous venir? Maintenant, il y a des gens agenouillés autour de l'autel ici. Pourquoi ne vous levez-vous pas pour venir? Vous avez voulu le faire. Vous avez essayé. Pensez simplement à notre cher frère Lyle Palmer, notre bon et cher frère. Il était assis dans le jardin, d'après ce que j'ai compris, en train de regarder sa petite fille qui jouait au croquet. Elle tombe à la renverse sur sa chaise et est morte sans avoir pu faire un mouvement de plus. Vous ne savez pas à quel moment vous allez partir d'ici. Vous ne savez pas à quel moment. Ce peut être déjà ce soir. Alors pourquoi ne pas venir mettre les choses en ordre maintenant? Venez, vous tous. Ne pouvez-vous pas sentir quelque chose qui vous tiraille? Je sais que beaucoup d'entre vous devraient être ici à l'autel. Il y a juste ces 6 ou 7 personnes ici, ce qui n'est rien en comparaison de celles qui sont assises là. Maintenant, si vous me croyez et qu'en observant vous avez vu des choses arriver ici sur l'estrade, croyez-moi maintenant. Un jour, ma voix se taira et vous ne l'entendrez plus. Vous souhaiterez peut-être y être venu. Vous dites, mais frère Branham, j'étais un membre d'église. Cela ne fait aucune différence, ce que vous avez été. Nicodème aussi avait été un membre d'église. Jean-Pierre, Jacques, Paul et tous les autres avaient aussi été membres d'église. Paul fut un membre d'église, jusqu'à ce que quelque chose arrive un soir, ou plutôt un jour, et il vint. Alors il fut changé d'un membre d'église en un fils de Dieu. Ne voulez-vous pas venir? Oh, il était cultivé, c'était un intellectuel. Il savait qu'il était cultivé dans l'un des plus grands centres culturels, par Gamaliel, l'un des meilleurs professeurs du pays. Mais il savait qu'il avait besoin de quelque chose. Ne voulez-vous pas venir? Encore une fois, je vous demande, que ce soit ici ou dans le pays, je vous demande, où que vous soyez et quelle que soit l'assemblée, où vous vous trouviez en cette heure de Thanksgiving, souvenez-vous que je suis enregistré ici, non seulement ici, mais au ciel. Vous savez qu'il est scientifiquement prouvé que tout mouvement que vous faites est enregistré. On a prouvé cela. Souvenez-vous, la télévision l'a prouvé. La télévision ne fabrique pas d'image. Vous êtes l'image. Elle transmet simplement ce que vous êtes en train de faire dans un canal. Vous êtes là, quoi qu'il en soit. Voyez, lorsque vous bougez votre doigt, ce mouvement fait le tour du monde. Chaque fois que vous mettez une robe, votre aspect fait le tour du monde. Le fait est enregistré. Chaque pensée qui traverse votre esprit est sur un enregistrement. Et un jour, l'enregistrement cessera de jouer. Il sera mis dans l'album et au jugement, il reviendra. Vous serez là avec vos cheveux courts, prétendant être chrétienne. Vous serez là avec des pensées contre la parole dans votre esprit. Là, dans votre esprit, vous ne pouvez le cacher. Souvenez-vous, la télévision, même la science sait que c'est vrai. Vous êtes là maintenant, tout en sachant que vous devriez être ici.
Souvenez-vous que ceci sera enregistré, et au jour du jugement, la même pensée que celle que vous avez maintenant vous reviendra à l'esprit. Ce sera enregistré, le monde entier verra la reproduction. Pourquoi le monde vous regardera au jour du jugement? Tous les anges seront là. Si vous avez honte de moi ici, alors que votre image est en train d'être faite, d'être formée maintenant, au jour du jugement, j'aurai honte de vous. Car j'ai oint la parole que je vous ai envoyée. Vous n'avez pas voulu la croire. Vous vous êtes caché derrière quelque chose. Oh, ça paraît suffisant. J'ai fait ceci, j'ai dansé dans l'esprit. J'ai parlé en langue. Les païens aussi. J'ai crié. Les païens aussi. Alors comment pouvez-vous vous détourner de la parole? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas venir à lui maintenant? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas venir à lui maintenant? Pourquoi attends-tu, cher frère? Oh, pourquoi tardes-tu si longtemps? Jésus attend pour te donner une place dans sa demeure sanctifiée. Mais vous êtes un membre de son corps. Pourquoi pas? Oh, petit aigle, viens. Pourquoi ne pas venir à... Seigneur, je suis reconnaissant, je suis très reconnaissant. Je t'adresse mes actions de grâce, Seigneur. Non pour la nourriture naturelle, bien que je l'apprécie, mais Seigneur, nous sommes dans les temps de la faim, et je suis reconnaissant pour cette nourriture spirituelle, Seigneur, la nourriture spirituelle des sept sceaux qui, selon la promesse, devait être révélée. Vous dites, ce sera quelque chose de différent. Non, non, vous ne pouvez ni ajouter ni reconnaître en moi, ça se trouve déjà là-dedans. C'est simplement caché, c'est scellé. Combien que prennent cela qu'ils disent Amen? Voyez-vous, dites, eh bien, c'est un mystère sans réveiller. Non, non, il est déjà inscrit. Vous ne pouvez ni ajouter un mot ni en retrocher un. Vous voyez, c'est déjà là-dedans. Ça doit simplement être révélé dans les derniers jours. Ne voulez-vous pas venir? Venez maintenant, mes amis. Si vous ne comprenez pas, venez vous agenouiller et dites-le-lui. Si je ne puis le remplir pour vous, il le fera. Car c'est lui qui dissipe tous les doutes. Ne voulez-vous pas venir? Souvenez-vous, on est en train d'enregistrer ceci, non seulement sur cette bande magnétique, mais sur le grand enregistrement de Dieu. Chacun de vous, chaque mouvement que vous inclinez la tête, que vous inclinez votre cœur, quelle que soit la pensée qui traverse votre esprit, souvenez-vous, c'est enregistré maintenant dans la gloire. Et l'enregistrement sera passé au jour du jugement. Où est votre décision? Oh, combien vous voudrez changer ce jour-là? Je vais attendre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes autour de l'autel maintenant. Voyez, peut-être que si je continue encore un moment, il y en viendra encore un. Ce pourrait être quelque part à New York, ce pourrait être quelque part à Philadelphie, en Californie ou en Arizona. Quelqu'un d'autre pourrait encore venir quelque part. Pasteur, où que vous soyez, ne mettez pas fin à l'appel à l'autel maintenant. Il se peut que nous ne voyons pas d'autres Thanksgiving. Celui-ci pourrait être le dernier. Les enregistrements seront classés ce soir pour la dernière fois. Un de ces jours, la bande magnétique arrivera au bout. L'enregistrement sera pris et placé dans l'album de Dieu. Et vos pensées de maintenant seront réentendues. Ne dites pas que vous ne saviez pas autre chose. Vous le savez. Mais nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Je crois que si j'étais assis là, quelque part ce soir, avec la moindre pensée, je viendrais sûrement ici, aussi vite que possible. Avez-vous fini? Êtes-vous sûr que vous n'attristez pas son esprit? Gardons nos têtes inclinées. Vous êtes sûr de n'avoir pas attristé son esprit? Vous êtes sûr d'avoir fait exactement ce qu'il vous disait de faire? Vous êtes certain maintenant? Souvenez-vous, il se pourrait que vous n'ayez pas d'autre occasion. L'enregistrement peut être terminé ce soir. C'est peut-être tout. Ce peut être la dernière bande enregistrée pour vous. Êtes-vous sûr que vous êtes prêt maintenant? Si c'est le cas, j'abandonne cela entre vos mains au nom du Seigneur Jésus. Pendant que le cœur chante doucement, je vais prier pour ceux qui sont ici en bas. Je suis un chrétien très original. Je crois que Dieu doit donner le salut, et je crois que Dieu doit planter la parole. Moi, l'Éternel, comme le dit la Bible dans Ésaïe, moi, l'Éternel, l'ai planté, je l'arroserai jour et nuit, de crainte que quelqu'un ne l'arrache de ma main. Avant de demander à quelqu'un de venir à l'autel de ces gens, je désire prier moi-même pour eux, inclinons nos têtes maintenant. Jésus bien-aimé, j'ai simplement cité ta parole, ce que ton prophète a dit, et je sais que les paroles des prophètes sont vraies. Et tu as dit, moi, l'Éternel, l'ai planté. Très certainement, tu l'as mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Moi, l'Éternel, l'ai planté, et je l'arroserai jour et nuit, de crainte que quelqu'un ne l'arrache de ma main. Ceux-ci, Seigneur, ont probablement entendu de nombreux appels à l'autel. Mais tu continues à l'arroser, Seigneur. Les voici ce soir. Père, puissent-ils simplement se libérer ce soir de toutes les choses du monde, de tous les péchés et les soucis qui sont dans leur cœur. Qu'avec tout leur bon sens et le respect dans leur cœur, ils se tournent maintenant vers ta parole et disent, « Seigneur Jésus, au fond de mon cœur, j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose pour moi que je n'avais pas encore reçu. Bien que j'ai essayé, comme il a été dit ce soir, de suivre la poule, il y avait quelque chose qui me semblait étrange. Ça ne sonnait pas juste. Et ce soir, je sens que je viens maintenant plus près, dans les bras de la parole vivante. Je viens ici avec respect, l'esprit bien disposé. Je suis venu ici près de cet autel. Je désire tellement le salut, Seigneur. Je suis si affamé. Je désire, Seigneur, que tu me tiennes dans tes bras ce soir. Non par une émotion, mais par l'esprit d'amour. Prends-moi dans tes bras, Dieu bien-aimé. Je suis ton enfant. Je sens que je suis cet aigle dont on parlait. Attrape-moi, Seigneur, alors que je saute. Je me suis levé de mon siège à agenouiller ici. Attrape-moi, Seigneur, je saute. Emmène-moi sur tes ailes, Seigneur, loin des choses du monde. Puissais-je m'envoler loin de la saleté de ce monde, de mes mauvaises habitudes, de toutes mes traditions dénominationnelles. Puisse-je venir seulement à toi, Dieu bien-aimé, afin que ton Saint-Esprit déverse en moi le pardon de tous mes doutes. Puisse-je venir ce soir, ton enfant, nouvellement né et nouvelle créature. Attrape-moi, porte-moi loin du caquettement des poules, porte-moi jusqu'à l'air de l'aigle, où je pourrais être nourri de la parole de Dieu, jusqu'à ce que je sache voler. Accorde-le, Dieu bien-aimé. Prends-les, ils sont à toi. Je prie avec sincérité. Je prie pour des gens mourants. Accorde-le, Père. Je t'adresse cette prière de leur part. Je le demande pour la gloire de Dieu. Maintenant, avec nos têtes inclinées, je me demande si, vous qui vous êtes agenouillés ici autour de l'autel, beaucoup parmi vous prétendent être chrétiens, mais vous avez senti qu'il y avait toujours quelque chose, quelque part, que vous ne possédiez pas. Il se peut que vous ayez accompli tous les actes religieux, que vous ayez crié, que vous ayez tout fait, que vous ayez dansé dans l'esprit, que vous ayez parlé en langue, et personne ne peut rien dire à contre. C'est vrai. C'est très bien. Mais vous voyez, ce sont des dons de l'esprit sans l'esprit. Si l'esprit était là, ce sentiment ne condamnerait pas ainsi. Croyez-vous sincèrement, alors que vous êtes ici à l'autel, qu'en vous abandonnant simplement, non sous forme d'émotion, mais avec une foi véritable et sans mélange, Dieu vous recevra et vous nourrira de sa parole jusqu'à ce que vous soyez vous-même des aigles et puissiez voler? Si c'est le cas et que vous désiriez que Dieu fasse cela, levez la main. Vous qui êtes autour de l'autel, que Dieu vous bénisse, chacun levez la main. Maintenant, faites très doucement. Je vais demander à des hommes, à des femmes consacrées, qui connaissent vraiment Dieu. La plupart, c'est très étrange, il semble que ce soit ainsi. soit ainsi. Les appels à l'autel que je fais, ce sont pour la plupart des hommes. Vous savez qu'en général, ce sont des femmes. Mais ici, ce sont tous des hommes. Je crois qu'il n'y a qu'une femme à l'hôtel ce soir, peut-être deux. Ce sont habituellement des femmes. Mais pour une raison quelconque, il semble que les femmes pensent que je parle contre elles. Non, sœur. Trois, je crois que quelqu'un a dit. Je ne peux pas voir par-dessus l'hôtel. Très bien. Que quelques chrétiens consacrés parmi vous viennent ici et prient une minute avec moi. À l'hôtel, où que vous soyez sur l'estrade, quelqu'un qui connaisse vraiment Dieu, qui sache comment prier ici avec eux pendant quelques minutes, puis nous reverrons l'assemblée. Que chacun soit vraiment respectueux maintenant. Ne partez pas, venez ici et restez autour. Quelques-uns parmi vous qui croient vraiment que ceci est la vérité, selon laquelle nous pénétrons dans un autre âge, nous pénétrons dans l'âge de l'enlèvement. Vous savez, l'Église ne peut pas partir de cet état, elle ne peut pas s'améliorer, elle doit empirer. Combien de saints qui disent Amen? Elle doit empirer, elle ne peut pas partir ainsi. Voyez, il doit y avoir quelque chose, et ça bouge maintenant, mes amis. C'est en route, le mouvement est en route pour l'épouse. C'est la vérité. C'est ainsi dit le Seigneur. Venez maintenant, vous, chrétiens consacrés, sachant que ceux qui sont venus sont sincères. Ainsi, venez prier avec eux, les considérant comme vos frères et sœurs. Venez autour de l'autel. Tenez-vous ici autour un moment pour prier. Quelqu'un d'autre veut-il venir? Restez ici, agenez-vous. Agenez-vous près d'eux. Vous, hommes, allez vers ces hommes, vous, femmes, doucement, humblement, priez pour eux. Dieu bien-aimé, aide-les. J'abandonne tout. J'abandonne ma dénomination. J'abandonne mon premier mariage. J'abandonne mon premier mari. J'abandonne tout, Seigneur. J'abandonne tout. Tout à toi, mon Sauveur béni. J'abandonne tout. Êtes-vous prêt à abandonner vos propres idées? Pouvez-vous abandonner vos propres idées au profit de la parole de Dieu? Croyez dans l'auditoire, levez-vous et chantons-le ensemble maintenant. J'abandonne. Vous vous abandonnez tous? Préparez-vous à le chanter maintenant. J'abandonne. Tout à toi, mon Sauveur béni. J'abandonne tout, j'abandonne les dénominations, j'abandonne les églises, je m'abandonne moi-même, j'abandonne mes églises, tout à toi, mon Sauveur béni, j'abandonne tout. Le pensez-vous vraiment? Vous qui êtes ici autour de l'autel, qui avez prié, l'Église a prié pour vous. Vous avez prié vous-même. Maintenant, vous ne pouvez être sauvés que d'une manière. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Et par grâce. La grâce de Dieu vous a parlé, vous a amené à l'autel. Vous rechercherez bénédiction de Dieu. Vous recherchez sa parole. Vous recherchez le Saint-Esprit. Vous recherchez les faveurs de Dieu. Si c'est le cas, et que vous pouvez vraiment l'abandonner de tout votre cœur, maintenant ne cherchez pas une émotion. Cherchez une vérité qui vienne de votre cœur par la foi. Seigneur, je suis prêt à faire tout ce que ta parole me commande de faire. Je m'abandonne avec tout ce qui est en moi. Si vous croyez cela de tout votre cœur, je veux que vous vous leviez, que vous tourniez vers cette église, vers l'assemblée. Levez les mains et nous le chanterons ensemble avec eux. J'abandonne tout ce qui est en moi, ô Dieu, au mieux de ma connaissance, tout ce que je suis, je l'abandonne. Montez sur cette estrade ici, vous qui êtes à l'autel. Montez sur cette estrade, frère. Ici, vous tous, frères et sœurs. Regarde ici, Église.
Hallelujah, hallelujah.
Une sœur ici des dénominations, elle a dit, j'appartenais à une dénomination, nous n'avons pas à la nommer, elle y travaille, mais elle a dit, frère Branham, je désire aller vers la vérité, je veux dire quelque chose qu'ils n'ont pas, laissez-moi citer sa parole, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Maintenant, vous qui venez d'arriver sur l'estrade, si vous êtes prêts à abonner tout ce que vous êtes, toute chose pour obéir à la parole de Dieu, nous avons déjà dit cette semaine ce qu'il y a à faire. Ainsi, si vous êtes prêts à vous abonner à lui maintenant, levez les mains comme ceci face à l'assemblée. Maintenant, vous ici sur l'estrade, chantez ensemble maintenant. J'abandonne tout, tous ensemble, bien. Pensez-vous vraiment, dites Amen. Dites Amen encore une fois. Dites Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi, donne-moi une occasion. C'est tout ce que je puis faire ce soir. Me donner à toi. Tu connais la fin de mon cœur. Tu connais mon désir. Ta promesse était de satisfaire ce désir. Maintenant, je l'accepte et je m'abandonne à toi, tous ensemble.
I want.